Salut tout le monde, bon midi, boulevard 102.1 dans On en jase. Mon nom est Gabriel Marino. Très heureux de remplacer aujourd'hui donc les acteurs habituels de cette émission. Merci Mathias pour ma première édition de On en jase. C'est édition très limitée ça. Tu sais, des fois, ils font ça, les microbrasseries, là, ils t'en font comme juste pour deux semaines, puis profitez-en de maintenant. Ça va être ça, profitez-en juste aujourd'hui.
Juste là.
Salut Mathias, ça va bien?
Ça va très bien.
Bonjour Antonine.
Allô Gab.
Un charme de t'avoir avec nous aujourd'hui.
Merci de me recevoir dans l'édition très limitée.
Oui.
Je me sens vraiment privilégié.
Tout à fait, jusqu'à 14h, c'est une édition donc...
très limitée.
De On en jase. On va s'assurer de vous tenir au courant de tout ce qui se passe. On a quand même un show bien spécial de prévu pour vous et je me tâcherai quand même de vous parler un peu de country d'ici la fin de l'émission si vous m'en permettez. Mais Mathias, avant toute chose, circulation, manchette, tour de table, un peu d'actualité.
Oui, je veux juste commencer avec la circulation parce que puis on le voit depuis maintenant quelques jours, en fait, depuis mon retour de vacances, que c'est plus difficile et ça même sur l'heure du dîner, notamment sur la 20 en direction ouest, il y a des travaux dans le secteur de Taniata, puis ça rend la situation compliquée à longueur de journée. C'est présentement entre Taniata et Président Kennedy que c'est au ralenti. Également, leur ancienne direction sud pour accéder à la capitale, un peu d'attente dans le secteur. Laurier, en direction ouest, dans le secteur du centre d'achat, c'est au rouge aussi, il y a quoi que ce soit d'autre. 418-971-1021 par texto.
Météo peut-être aussi, juste pour faire le tour là-dessus. Là, présentement, on a 21 degrés. C'est une belle journée sur Québec, vraiment. 40% de risque d'averse ce soir et cette nuit. Annulez rien par rapport à tout ça. Là. C'est un 14 au minimum par la suite. Demain, c'est sûr que c'est pas, y a rien de gagné. Là. Ça, c'est prévu des averses. Risque d'orage aussi au sud en après-midi. Et le maximum est à 17. Samedi, des nuages, 21. Puis dimanche, à date, c'est la belle journée du week-end avec un maximum jusqu'à 23. J'ai cru voir que l'appel d'offres d'intérêt international a été lancé pour de vrai cette fois-là. C'est la combienième fois qu'on fait cet appel d'intérêt international pour le troisième lien?
Beaucoup trop?
Oui, non, c'est ça.
Puis... Non, il y en avait eu un autre, genre,
ouais,
lancé ça, par Geneviève Guilbeault.
Oui, ouais, c'est ça, exact. Puis ça n'avait jamais abouti finalement. Est-ce que ça... En fait, ça semble être encore un autre spectacle de la CAQ avant les élections pour un potentiel troisième lien qui va jamais aboutir finalement. En gros,
tellement cynique, Mathias. Voyons.
Je me demande bien pourquoi je suis cynique comme ça sur le dossier du troisième lien.
Je comprends pas ton découragement. Ça va très bien. Ça va bon train. Ce dossier-là, ça avance.
Ça avance à une vitesse exceptionnelle depuis maintenant 8 ans sur le gouvernement. Tu l'as dit, c'est le gouvernement Fréchette qui a lancé un appel d'intérêt international pour réaliser le troisième lien à l'Est, collaboration avec le privé. On veut un pont à péage à l'Est. Par contre, il va falloir attendre au printemps 2027 pour connaître le tracé exact.
Si jamais ils sont réélus ou ça va avoir lieu quand même, en fait, il n'y a pas d'autre gouvernement potentiel que la CAQ.
On attend un peu les prises de position des partis politiques. On sait que le Parti québécois s'est positionné contre un troisième lien autoroutier. On sait que Charles Milliard, chef du Parti libéral, est pas contre un troisième lien, mais ça n'a pas l'air d'être la priorité de tous ces instants non plus, mais c'est pas clair.
Il est pas contre un troisième lien. Lui, il a d'air quand même assez pauvre, mais chaque fois qu'un autre, un des députés du Parti libéral prend parole dans les médias, ça n'a pas l'air vraiment désintéressé tant que
non,
ça,
hein?
Troisième lien.
Le PLQ de Dominique Anglade était contre,
ouais.
Alors que le PLQ de Philippe Couillard avait parti le bureau de projet.
Ouais.
Donc, c'est pas clair. QS, c'est clair, là, son compte.
Mais c'est clair qu'ils seront pas élus au gouvernement non plus, par exemple.
Es-tu sérieux?
Fait que c'est pas comme si avoir un enjeu là. Mais tu sais, cette nouvelle mouture de la dernière, l'ultime version du projet de Christine Fréchette, plus proche de l'île d'Orléans, là, et également avec un péage et tout ça. En tout cas, il y a une plus grande, j'ai l'impression... Un plus grand appétit pour cette idée-là avec le péage, surtout sur la Rive-Sud. Bien, la Rive-Sud, de toute façon, ils sont contents, mais avec cette version-là qui vient vraiment faire le périphérique, ça a l'air d'être ce qu'on dit depuis 10 ans que ce serait, me semble, la meilleure idée, mais qu'on a toujours refusé parce que c'était quelque chose de trop gros, trop massif, puis par-dessus le fleuve. Puis que là, finalement, on essaye ça la dernière fois. Mais j'ai hâte de voir s'il n'y a pas d'autres gens que la CAQ qui vont embarquer dans cette idée-là.
Puis on oublie Éric Duhaime, quand même, qui est assez clair. Lui,
c'est clairement ce
projet-là. Lien, c'est ça, à l'Est. Donc, finalement, on a satisfait M. Duhaime.
Mais encore une fois, on ne va pas être élu du côté des conservateurs. Fait que tout porte à croire que...
Ça sert à rien.
C'est que si quelqu'un d'autre que la CAQ est élu... ça se pourrait qu'il y a de bonnes chances que le projet tombe à l'eau. Ouais. Puis même si la CAQ est réélu, il y a de bonnes chances que le projet tombe à l'eau aussi.
Mais Éric Duhem aussi fait élire quelques députés sur la Rive-Sud et peut-être sur la Rive-Nord aussi.
Avoir la balance du pouvoir.
Et là, oui, dans un contexte de gouvernement minoritaire, mettons que ce soit la CAQ ou le Parti libéral gagne, ben peut-être que le projet aura des chances d'avancer. Le PQ, eh ben, je mets QS là-dedans, mais effectivement, les chances sont faibles que QS
gagne
la prochaine élection.
Avec les libéraux minoritaires, il y aurait peut-être un...
On verra, mais tu sais, c'est sûr que ça fait 15 ans qu'on en parle, puis ça va être la quatrième élection qu'on fait sur le troisième lien. Donc, même que tu sois pour ou contre, on dirait que les gens ont juste les oreilles qui se ferment quand on parle de ce projet-là maintenant.
On n'a pas le choix de revenir sur l'état d'urgence qui a été déclaré du côté du Venezuela à la suite de deux puissants séismes de magnitude 7.2 et 7.5. On parle d'un bilan actuel de 164 morts et 1000 blessés. Puis je dis bien actuel parce qu'il pourrait fortement s'alourdir au cours des prochaines heures. C'est notamment l'Institut géologique des États-Unis qui a fait une estimation comme quoi il y avait de fortes chances que le bilan s'alourdisse. Mais quand je dis s'alourdir, c'est quand même assez fortement, là. Selon eux, les probabilités qu'on se retrouve avec un bilan entre 100 et 1000 morts sont de 8 % entre 1000 et 10 000 morts, 33 % Et la probabilité la plus élevée, selon eux, ce serait un bilan entre 10 000 et 100 000 morts au total.
Ouais, non.
On va suivre ça de près au cours des prochaines heures, mais c'est sûr que ça augure pas bien de ce côté-là. De l'aide humanitaire de différents pays est partie.
J'ai pas vu pour le récent, là, parce que je sais que ce matin, c'était l'aide internationale qui s'organisait, puis l'ONU, bien sûr, puis les États-Unis qui mentionnaient être là pour l'aide, puis les pays européens. Puis j'avais pas vu le Canada encore là-dedans, mais là, Marconi a fait une conférence de presse dans les dernières minutes. J'imagine qu'il en a parlé un peu, puis que d'habitude, le Canada est quand même bon pour aider.
Bien sûr, le Canada qui a annoncé préparer une aide humanitaire justement pour soutenir les personnes touchées par des séismes du côté du Venezuela. Mais c'est sûr qu'on va avoir différents développements. C'était le plus gros séisme qui a touché le pays depuis 1990. Je termine avec ça. Annonce de candidature pour la CAQ dans Terrebonne et les Plaines. En fin de semaine, les CAQistes avaient annoncé leur première candidature. Nouvelle candidature, là. Manuela Goya, dans Brome, Missisquoi. Cette fois-ci, c'est dans Terrebonne, Valérie Doyon, une conseillère municipale et présidente du conseil municipal de Terrebonne. Et dans les Plaines, c'est Fatou Diop, entrepreneur et leader communautaire du secteur également. C'est deux circonscriptions où le PQ mène, mais la CAQ n'est pas si loin derrière.
Bien, on va en reparler d'ailleurs dans le caucus dans les prochains instants avec justement toi, Antonine. Juste le temps de dire que êtes-vous mêlé, vous, avec, sur les journées? Encore tantôt...
On est lundi, n'est-ce pas?
Ben oui, on est lundi, hein? Clairement, c'est le début de semaine, tout le monde. J'ai trouvé que le week-end a passé vite, je sais pas pour vous.
Oui, mais j'ai l'impression qu'on est lundi, mais un peu vendredi.
C'est... Ben là, je suis à même place, je suis complètement déboussolé. Puis au 418-971-1021, je sais pas si parmi vous, vous êtes en congé ou vous travaillez. Mais est-ce que vous vous sentez vraiment un jeudi? C'est vraiment bizarre aujourd'hui.
En tout cas, je me rappelle pas d'avoir eu une Saint-Jean-Baptiste de congé un mercredi en plein milieu de semaine, mais là, le vivre, j'ai hâte de voir. Puis, oubliez pas une chose, la semaine prochaine, ça va être la même chose. On va encore avoir, pour la plupart, un congé en plein milieu de la semaine. Faites-vous pas avoir.
Mais j'ai l'impression que ça va être moins pire pour la fête du Canada. Puis, je m'explique. Le mardi soir, on avait l'impression d'être en congé. Tu sais, la soirée
c'était
du mardi...
Festif.
C'est ça, c'était une fête. C'était comme une journée de congé en soi, le mardi. Après ça, on a eu le mercredi, que c'était le lendemain de fête, tout. Puis là, on recommence à travailler de même, pas trop rapport. C'est
généralement, le 1er juillet, on fête un petit peu
On fête beaucoup moins.
Je veux pas rendre ça politique, là, mais d'habitude, c'est plus relax.
Puis avec le déménagement, peut-être aussi, de toute façon, les gens vont prendre ça pour ce temps-là. Mais donc, c'était une journée spéciale sur le fait de, on est bel et bien jeudi, on est bel et bien le 25 juin, puis demain, c'est déjà vendredi, OK? C'est bon, ça?
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iacarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Dans On en jase à Boulevard 102.1, moi, c'est ma première de la saison avec vous.
Ta première et ta dernière de la saison.
Oui. Et ce sera, par contre, la dernière.
C'est ça.
Justement, du caucus avec toi,
Antonine. C'est des premières, c'est des dernières. Oui. On est lundi, on est vendredi, on est jeudi, on est tout mêlé. Mais c'est mon dernier caucus avant l'été. Ouais.
Ben, Caroline, puis c'est normal avec la fin de la session parlementaire puis tout aussi.
Puis aussi, c'est parce que les gens ont moins envie de parler de politique. On en parle un peu. Mais c'est sûr que le caucus, c'est un rendez-vous. Est-ce qu'on prend un bon 25 minutes pour tout décortiquer, les sujets majeurs de la politique, scène fédérale, scène québécoise, scène locale, même internationale? Là, l'été, on vous donne un petit break. Là. on va être plus léger. Les gens, ils pensent plus à leur barbecue et c'est bien correct. Par contre, je dois dire, Gab, que depuis quelques étés, ça ralentit beaucoup moins qu'avant.
Oui, explique.
L'été passé, ça bougeait pas mal. C'était le premier été de Mark Carney. Il se passait beaucoup de choses à la scène fédérale. Trump nous tient occupés.
Et préparation de politique municipale l'été
politique
passé aussi.
Politique municipale. Ouais. Il y avait aussi une élection partielle dans Arthabasca avec Éric Duhaime. On en parlait beaucoup. L'autre été d'avant, c'était la présidentielle. C'était les primaires américaines. Coup de théâtre avec Kamala Harris qui a remplacé
Joe Biden.
Donc, ça fait plusieurs étés que moi, pour vrai, ça ralentit pas tant que ça. J'ai beaucoup de
travail. Est-ce que tu y crois cette année?
Que je vais relaxer? Non. Là, c'est vraiment le pire. Là. C'est campagne électorale québécoise cet automne. Donc, oublie ça. Mes attentes sont très basses en termes de repos. Mais on va quand même mettre une pause au caucus. Mais on va profiter de ce dernier caucus au maximum.
Alors, qu'est-ce qui nous a marqué lors de la dernière saison, du dernier 4 ans? Parce que là, la CAQ à l'Assemblée nationale, c'est terminé. Même si on continue d'annoncer des appels d'intérêt international pour le troisième lien, techniquement, il n'y a plus grand-chose qui se passe en termes de projets de loi puis de trucs d'Assemblée nationale. Le dernier mandat, si on considère aussi que le premier mandat, ce qui nous a marqué, c'était la pandémie, évidemment, avec François Legault. Puis c'est une des raisons certainement qui lui a permis d'être réélu à aussi forte majorité lors de son second mandat. Mais le second mandat, c'est quoi qu'on en retient? La question est bonne. Puis, est-ce que tu veux que je commence ou c'est qui?
Écoute, d'abord, juste dire que tu as raison de dire que le premier mandat, ça a été beaucoup marqué par la pandémie. Puis de se rappeler aussi, moi, je vous ramène en 2022, comment François Legault était populaire. Puis, tu sais, là, c'est dur de le réimaginer maintenant tellement que le cycle politique fait en sorte que l'usure du pouvoir est lourde sur François Legault. Bon, il y a Christine Fréchette qui est là, mais t'sais, on arrive à la fin d'un deuxième mandat pour la CAQ, puis on finit cette session parlementaire-ci avec un été politique qui nous amène à la campagne électorale extrêmement imprévisible, des sondages qui sont très, très morcelés, puis ça continue de bouger. Mais quand j'ai fait l'exercice de réfléchir aux moments qui m'ont marqué dans les dernières années, il y a des affaires qui me semblaient tellement loin, on dirait que ça fait tellement, tellement longtemps. Fait que j'avais envie de vous poser la question, vous, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans les événements politiques des 4 dernières années? Je ne sais pas qui veut se lancer en premier, Mathias.
Moi, j'irais avec un mot. Et puis j'ai l'impression que ça résume peut-être pas les 4 dernières années, mais du moins les 2-3. Fiasco. J'ai l'impression que ce soit de fiasco Nordvolt, que ce soit de fiasco Saclic, le deuxième mandat de François Legault a été beaucoup marqué par ce mot-là. Le mot
c'est
fiasco,
vrai.
Que tous les scandales du côté de la CAQ, on le ramenait. Un fiasco du côté de Sakic, un fiasco du côté de Nordvolt. Ouais. Puis en même temps, c'est parce que c'était le terme approprié pour ça, mais j'ai l'impression que...
La subvention aux Kings de Los Angeles.
Ça, mon Dieu, cette séquence
toutes ces affaires-là.
Absolument. Toi, Gab, qu'est-ce qui t'a marqué?
Bien, c'est drôle parce que je t'allais à peut-être pas contresens aussi de ce que tu dis, mais oui, j'ai eu l'impression, parce qu'un des moments qui m'a marqué, je pense, c'est la grève du réseau de l'éducation.
Oui.
Ça fait... Pas si longtemps, mais assez longtemps politiquement, parce que c'était pas cet
automne,
c'était l'autre.
2024. 4, ouais.
Donc, puis ça m'a fait réfléchir par la suite à l'année suivante, 2025, où on a tenté d'avoir la même ligne dure sur les négociations avec les médecins dans le réseau de la santé. Puis les deux fois, c'était « OK, non, c'est l'automne, on a les coups des franches, on a des réformes à faire et voici nos conditions puis voici les renouvellements de conventions collectives. L'éducation, ça va fonctionner de même. » Les syndicats braquent le bouclier, les grèves qui étaient quand même assez importantes, le réseau de l'éducation, on n'avait jamais vu ça. Et ultimement, Noël arrive, « OK, bon, on trouve une entente, le gouvernement met de l'eau dans son vin, puis... » Ben, à voir si c'est mieux maintenant dans le réseau d'éducation ou est-ce qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils avaient l'intention de faire, je ne le sais pas. Le résultat, c'est qu'ils n'ont pas réussi à maintenir la ligne dure. Et c'était la même chose avec la santé cette année avec Christian Dubé, qui avait un grand plan de match, qui a encore, la semaine passée ou la deux semaines, défendu la pertinence. mais que c'est pas arrivé parce qu'on a encore reculé versus des gros syndicats qui ont fait des grèves importantes qui, rendues à Noël, ben finalement, ça n'a pas eu lieu. Fait que moi, c'était ça. C'était dû beaucoup des intentions de faire quelque chose, mais à la dernière minute, pas réussir à le faire parce que politiquement, après ça, ils perdaient complètement la bataille de l'opinion publique à chaque fois.
Oui, puis je trouve que c'est vraiment important ce que tu dis parce que c'est vraiment dans l'ADN de ce que François Legault voulait faire en politique, notamment sortir du carcan syndical. Parce qu'on veut faire des politiques, on veut faire des changements, mais il faut que tu négocies des conventions avec les médecins, avec les infirmières, avec les enseignants, etc. Puis là, tu te butes à certaines limites. Puis est-ce que François Legault et Christian Dubé auraient dû garder la ligne dure, par exemple, par rapport aux médecins? Moi, je trouve que le système de santé, on sort de ces années-là, puis c'est dur de ne pas être complètement cynique, de se dire, coudonc, est-ce que c'est possible de faire ce genre de changement-là? Parce que moi, pour vrai, je leur donne... Je pense qu'ils avaient vraiment une bonne intention.
Je suis à la même place que toi. Je pense que la personne qui m'a vraiment fait le plus y croire à ce qu'il y ait une certaine amélioration... c'était Christian Dubé. Il y avait d'ailleurs, à l'automne dernier, l'appui du public quand même. C'était un des policiers les plus appréciés là,
absolument.
Du gouvernement.
Puis les fiascos de la CAQ dont Mathias parlait, ça collait pas du tout à la peau de Christian Dubé. Il est resté populaire assez longtemps. Mais c'est comme si, finalement, quand les médecins ont commencé à faire des moyens de pression, ils ont commencé à s'en aller en Ontario, à fermer des cliniques, là, l'opinion publique a complètement reviré de bord.
Mais si Christian Dubé n'a pas réussi, je sais pas qui va réussir.
Ben, moi, c'est ça qui est décourageant. Ouais. Ouais, absolument. Puis je nous corrige parce qu'on a dit automne 2024
c'était
pour
2023?
La grève. C'est 2023.
Bon.
Puis ça, c'en est un moment, je pense, qui est comme le point tournant du mandat de la CAQ. C'est cet automne-là où, bon, on avait déplogué le troisième lien quelques mois auparavant. Élection partielle dans Jean Talon en octobre. Et là, sort un autre scandale sur le troisième lien. Pascal Paradis, candidat du PQ, qui, en fait, la CAQ sort l'information comme quoi il a voulu être candidat de la CAQ pour l'élection générale, un an plus tôt. Mais lui, il réplique, puis il dit « Ouais, c'est vrai que j'ai rencontré la CAQ. » Puis savez-vous ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit qu'ils allaient attendre après l'élection pour déploguer le troisième lien. Donc là, c'est venu vraiment nourrir cette idée que la CAQ, finalement, agissait de façon pas transparente dans le dossier du troisième lien. Le PQ a gagné cette élection partielle. Juste après... Ça a été l'annonce des premiers gros déficits par Éric Girard, ministre des Finances. Et quelques jours plus tard, c'est l'annonce des Kings.
Puis
Et la grève dans le système d'éducation en même temps.
Et les salaires des élus qui
et
augmentent.
Et le salaire des... Oui. Donc, ça a été comme un 6 mois, une séquence là, genre terrible de communication politique. Et c'est vraiment le point tournant. Puis quand on regarde l'évolution des sondages, vous allez voir là, la courbe du PQ à ce moment-là qui croise... en montant celle de la CAQ qui s'effoire. Mm-hmm. C'est vraiment cet automne-là, automne 2023.
Mais en même temps, c'était tellement un désastre. C'est comme si rien n'était prévu. Tu sais, on rentrait dans une négociation avec... On rentrait dans une négociation avec le milieu de l'éducation. On savait qu'on s'en allait là. C'est comme si tout ce qui était par rapport aux négociations, c'était pas prévu. On s'est fait battre dans une partielle en même temps. On a agi en panique en faisant plein de niaiseries.
Mais là, je vais faire un lien avec le premier mandat. C'est que la CAQ, c'était un parti qui était habitué de gouverner un peu par décret. Il n'y avait pas d'opposition dans le premier mandat. Les groupes d'opposition étaient très affaiblis. Il y a eu la pandémie. On pouvait gouverner un peu par décret. L'Assemblée nationale avait été un peu fermée pendant un bout de temps. Puis quand ça s'est mis, la chaleur s'est mise à monter. On a l'impression des fois que la CAQ avait de la difficulté à gouverner dans ce nouveau paradigme-là. Moi, un autre événement qui m'a marqué dans le dernier 4 ans, c'est le départ de Pierre Fitzgibbon. Un an plus tard de ce qu'on se disait l'automne 2023, c'est à l'automne 2024, pardon, que Pierre Fitzgibbon, super ministre...
Il avait trouvé l'amour.
Ouais, je pense qu'il avait... En fait, il avait perdu l'amour de la politique.
Oui!
Et rappelez-vous, pendant quelques temps, la rumeur courait continuellement que Pierre Fitzgibbon allait quitter, puis il semble que ce soit le premier ministre, à un moment donné, qui a dit « Là, Pierre, là, va-t'en donc. » Tu sais, comme on est tanné de t'entendre dire « Ouais, je vais m'en aller bientôt, ta-ta-ta. » Parce qu'il avait déposé un gros projet de loi qui réformait l'énergie. Il disait « Je vais finir le projet de loi, puis je vais quitter. » Mais finalement, M. Legault, il a dit « Non, Pierre, garde, je suis tanné, va-t'en. » Et c'est là qu'il a mis Christine Fréchette. Et c'est là que les gens ont commencé à découvrir Christine Fréchette, puis la vie a fait finalement que Mme Fréchette est devenue première ministre. Et il y a eu une autre élection partielle, et c'est une autre élection partielle que la CAQ a perdue.
Ouais,
tous beaucoup. Les députés de la CAQ qui ont quitté, qui ont créé des élections partielles dans Chicoutimi aussi, dans Arthabasca, ça a fait en sorte d'amener des défaites assez crève-cœur pour la CAQ par la suite.
Ça va nous mener à notre prochain sujet aussi tout à l'heure par rapport au fait qu'ils ont présenté deux candidats aujourd'hui. Parce que c'est un point important. Ils annoncent présentement, là, on quitte le navire le plus rapidement possible sur le naufrage de la CAQ. Les ministres, les grands députés, ceux-là qu'on connaît avec les noms.
D'élus
ça
qui
fait
annoncé
vraiment,
qu'ils quittaient, là.
Vraiment beaucoup. Là. Pendant que de l'autre côté, on annonce des candidatures relativement vedettes. Même du Parti libéral puis du Parti québécois, des gens connus, des gens qui ont une bonne feuille de route aussi. Puis il n'y avait rien, c'était à sec complètement pour la CAQ. On peut comprendre un peu pourquoi. Juste parce que je veux aller là, parce que tu as ouvert la porte, mais est-ce que ce qui a été annoncé aujourd'hui, c'est des candidatures vedettes? Est-ce que c'est des gens...
Non, c'est pas des candidatures vedettes. Okay. OK, soyons clairs. Par contre, je pense que quand tu es un parti politique, tu n'as pas à présenter juste des candidatures vedettes. Puis, il faut se rappeler aussi que des candidatures qui n'étaient pas vedettes sont devenues des vedettes. Ouais. Je pense à Geneviève Guilbeault, par exemple, en 2017, qui s'est présentée dans une élection partielle dans le Weber. C'était le plan B, hein, Geneviève Guilbeault. C'était même pas elle qui était candidate de la CAQ au début de l'élection. Puis Geneviève Guilbeault, c'est devenue une figure vraiment importante de la CAQ par la suite.
Donc ça pourrait, celui d'aujourd'hui, ça pourrait devenir des figures importantes, peut-être.
Je les connais pas, mais ces deux personnes-là qui ont été nommées. Valérie Doyon, conseillère municipale, on en voit souvent des conseillers municipaux qui font le saut vers d'autres paliers de gouvernement. Généralement, c'est des gens qui sont bien intégrés dans leur milieu, qui ont une expérience aussi politique. Donc, ça fait des candidatures très intéressantes pour les partis provinciaux. Le maire de Terrebonne qui a annoncé que Mme Doyon, qui faisait partie de son équipe, va siéger comme indépendante. D'ailleurs, c'est toujours un avantage assez particulier pour les conseillers municipaux qui sont payés, eux autres, pendant campagnes. Hein? Ben oui, ça arrive souvent. Malheureusement, les gens ont un avantage non négligeable sur d'autres candidats qui, eux, font ça un peu bénévolement.
Surtout qu'il y a plusieurs petites municipalités que ce n'est pas un emploi temps plein non plus, être
conseiller municipal. À Terrebonne, je pense que oui. Donc, Valérie Doyon, dans Terrebonne. Puis, effectivement, tu le disais tantôt, Gab, dans Terrebonne, et dans les plaines, la CAQ est... Ah, c'est toi, Mathias, qui disait ça, je m'excuse. En tout cas, je ne sais plus qui disait ça, mais il y a quelqu'un d'entre vous qui a dit ça, c'était très
pertinent. C'est pertinent,
oui.
c'est moi.
Donc, chicanez-vous pas, vous êtes tous les deux pertinents. La CAQ est deuxième. Donc, par exemple, dans Terrebonne, le PQ est projeté autour de 44 % La CAQ à 34 %. C'est quand même une bonne marge, mais c'est parmi les meilleures circonscriptions pour la CAQ. Okay? Parce que ça va pas très bien quand on regarde les projections pour la CAQ. Christine Fréchette qui a réussi à aller chercher des points de sondage supplémentaires puis à aller chercher quelques sièges projetés CAQ à la prochaine campagne électorale, mais il n'y en aura pas de facile. Puis le recrutement, quand tu n'as pas de château fort à offrir, toi, tu es candidat vedette. Là.
Ouais.
Tu te dis, bon, ben moi, je vais prendre un risque. Je suis animateur de radio, puis là, je veux me lancer en politique. Mais je prends un risque. Là, je veux gagner.
Après,
là.
Ben oui, dans n'importe quel domaine, tu es marqué à vie après en voulant dire que tu es la personne qui a fait ça.
Si j'ai pas de château fort à t'offrir,
ouais.
C'est un gros risque là, pour certaines candidatures, alors que les libéraux puis les péquistes ont des châteaux forts. Les libéraux surtout. Là,
oui.
Ils en ont comme 25 à la base. Là, c'est quand même intéressant. Fait que, mais pour le PQ, qui est très, très implanté dans l'Est du Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben, ils ont des comtés très intéressants à offrir, puis surtout qu'ils sont promis dans les sondages.
Et même les
plus.
Conservateurs, à un certain point, je veux dire, il y a des endroits qu'ils sont. Puis ils n'ont pas encore de. Ils en ont un député transfuge, là, mais ils n'ont pas fait élire encore. Mais techniquement, tout ce qui arrive sur la rive sud de Québec présentement.
C'est des bons comtés.
Ben,
là.
Oui, c'est un bon comté pour Éric Duhaime, puis c'est d'ailleurs là qu'il va se présenter cette année, c'est-tu
Dans Bellechasse, exactement.
Ouais. Il calcule ça en voulant dire, tu sais, à cet endroit-là, ça va être, si on a des chances de faire élire quelques-uns, ça va être là.
Puis Éric Duhaime, là, il veut pas rater son coup cette fois-là, parce qu'il s'est présenté dans l'élection partielle dans Arthabasca et ça n'a pas fonctionné. Donc cette fois-ci, il s'est dit, moi, je vais prendre le meilleur comté, là. Mm-hmm. Là, c'est pas vrai que je vais rater mon entrée à l'Assemblée nationale en 2026.
Même Québec solidaire pourrait... Est-ce que, Gouin, si tu gagnais pas mal, en plus que c'est un candidat...
Mercier, Gouin, là, c'est des châteaux forts.
Oui, de
QS.
Québec solidaire,
oui.
Quand même. Hein,
en région, c'est plus dur en ce moment. Si on regarde, par exemple, Sherbrooke, où est-ce que Christine Labrie, pour l'instant, c'est vraiment pas gagné, que
Québec,
QS va le garder.
Il y en a... C'est pas des châteaux forts, mais il y en a des députés. Ouais. Solzanetti, en fait, était dû à Québec.
Oui, et Étienne Grandmont, dans Taschereau.
Ouais.
Ils sont à risque, quand même, là, pour la prochaine campagne électorale. Mais ça va dépendre de plein de choses. Puis Taschereau, ça a toujours été une circonscription où il y a des luttes à trois. Ça peut créer des surprises.
Parce que Taschereau, Étienne Grandmont, avant ça, c'était...
Agnès Maltais.
Oui,
Catherine
Dorion que je cherchais. Exact. Donc, tu sais, c'est ça. Toujours un peu plus du côté gauche de la chose et avec le PQ avant d'être avec Québec solidaire.
Absolument.
Mais non, donc... Puis, tu sais, Je sais pas qu'est-ce qui explique que dans Terrebonne et les Plaines, c'est les meilleurs comtés de la CAQ. Je sais pas si tu l'as-tu
La couronne de Montréal, c'est un terreau fertile pour la CAQ. Je te dirais que traditionnellement, la région de Québec, Chaudière-Appalaches, centre du Québec, puis les couronnes de Montréal, c'est des terreaux fertiles pour la CAQ. Mais en ce moment, il n'y a rien de gagné nulle part. Là.
Mais est-ce que à Terrebonne, il y a eu quelque chose qui a été fait par des députés ou quelque chose qui a été construit politiquement, qui se sont dit, ben oui, regarde ce qu'ils nous ont amené dans les 8 ans de règne ici à Terrebonne maintenant que.
Non, mais c'est des comtés très francophones.
Ouais.
Donc, c'est très bleu. Le PQ, la CAQ, ça va être très fort. C'est plus difficile pour les libéraux. Puis, je dis ça, puis au fédéral, étrangement, Terrebonne a voté pour le Parti libéral du Canada. Donc, ça peut toujours varier. Mais c'est des comtés qui sont très, très, très francophones. Les libéraux ont de la difficulté
mais
à percer.
C'est ça le défi de la CAQ, j'ai l'impression, pour les prochaines élections aussi. C'est de dire, oui, on remonte dans les sondages, mais on reste dans une majorité de circonscriptions, seulement deuxième derrière le PQ.
Ouais. Ouais.
Fait qu'on chauffe le PQ, mais dans plein de circonscriptions, on va chauffer le PQ sans jamais en ramasser.
C'est pour ça qu'un parti libéral à 9 % d'intention de vote va avoir quand même 30 députés, mais que la CAQ à 30 % d'intention de vote... Peut-être 30, je pense que c'est plus 20 là, présentement, sont remontés à 20.
En bas même un peu.
Bon, fait que même à 20, ils peuvent avoir zéro. Parce qu'ils peuvent terminer deuxième à bien des places.
Tout est question de concentration du vote.
Ouais.
Concentration du vote francophone. Pour les libéraux, vote non francophone, ça s'en va tout dans la banque libérale. Donc, il faut regarder les projections. Il ne faut pas regarder seulement les intentions de vote. Puis pour la CAQ, il n'y a rien de gagné. Puis l'autre affaire avec la CAQ, c'est que c'est pas un parti où il y a un militantisme là, vraiment profond.
Ouais.
Vous connaissez tous des gens qui ont leur carte du Parti libéral, puis vont voter rouge toute leur vie, puis tout ça. Puis vous avez des péquistes, là, ils veulent voir leur pays, là, puis ils vont toujours être membres du PQ. À la CAQ, est-ce qu'on a vraiment cette base-là? Donc, moi, ce que je trouve intéressant avec la CAQ, c'est que j'ai l'impression que s'il n'y a pas un vrai mouvement, là, en campagne électorale, à un moment donné, le monde se dit « OK, go, on y va avec Christine Fréchette », bien, ils risquent toujours un peu de s'effouérer parce que les gens vont dire « ben là, si la CAQ n'a pas de chance de gagner pour battre l'option que j'aime le moins, ben alors, c'est quoi mon vote le plus stratégique? » Genre, si la question de l'urne, c'est vraiment la question du référendum, ben moi, si j'étais le Parti libéral, je dirais, écoutez, la gang, là, un vote pour la CAQ, c'est un vote pour le PQ. Là.
Ouais.
Si vous voulez vraiment pas qu'il y en ait de référendum, c'est chez nous. Puis en plus, t'es libéral, tu dis, en plus, il y a plein de caquistes qui sont pour soi à souveraineté, là, vous le savez. Vous avez vu Mathieu Lacombe, l'a dit, qui était dans l'autobus du oui. Donc, ça va être ça un peu le jeu, puis c'est le défi de Christine Fréchette, c'est vraiment pas évident.
On a vu aussi dans l'actualité politique que les débats des chefs, donc les dates sont données, les réseaux également sont confirmés par rapport à tout ça. Il y en aura 3 cette année des débats des chefs. Historiquement, ça a toujours été 2, mais avec Nouveau qui s'invite dans la fête aussi, donc ça en fait un supplémentaire. Et tant mieux, c'est bon pour le débat public qu'il y en ait davantage, des occasions comme ça pour les Québécois de se faire une idée, de juger des potentiels chefs et premiers ministres. Mais il n'y aura aucun débat en anglais. Et ça, je ne sais pas si historiquement ça a été fait au Québec
ça
tant
a
que
varié,
ça.
En fait, parce que en fait, c'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire en passant. Hein, le Québec, c'est une langue officielle, c'est le français. Mais moi, j'étais directrice des coms du PQ en 2018 dans la campagne, puis on l'a fait avec le PQ. Jean-François Lisée voulait le faire. Jean-François Lisée était chef du PQ à l'époque et lui avait été ministre des Relations avec les anglophones. Donc, pour lui, c'était important de le faire. Mais ça a eu un coût aussi. Les militants du PQ, ils sont pas nécessairement d'accord avec cette pratique-là.
L'idée d'un débat anglophone au Québec en général.
Oui, ils considèrent qu'ils peuvent l'écouter en français.
Ouais.
Puis les anglophones au Québec sont supposés être capables de parler français. Donc, qui s'organisent. Mais pour M. Lisée, c'était important de le faire. Il y avait eu lieu. Il faut comprendre que les débats, c'est pas quelque chose qui est régi par Élections au Québec. Ce n'est pas le directeur des élections qui dit le débat va être à telle date, ça va être ça le concept, telle personne va être invitée.
Au Canada,
c'est
c'était plus
médias.
Ça, non?
Non. Il y a une commission. Okay. Il y a une commission qui se met en place, mais c'est vraiment quelque chose qui est géré par les médias. Et il y a des négociations avec les partis politiques. Moi, j'ai fait ça, négocier des débats. Puis là, on va tout être assis autour de la table, puis on va dire OK, pour telle date, notre chef, nous, il veut vraiment parler de tel enjeu. Non, non, non. Il y a une négociation, puis les médias vont dire OK, ben ça va être telle thématique, telle longueur, tel animateur.
Tout le monde est d'accord là-dessus.
Est on y d'accord, va. Ouais, on ça. Y va, etc. On n'a pas les questions d'avance en passant. Ce qui arrive aussi, c'est que si c'est pas tout le monde qui dit oui à un débat, ça a tendance à tomber à l'eau. tu sais, à part si c'est des petits débats plus locaux, mais un débat des chefs, ben vous verrez pas TVA dire ah ben le PQ vient pas, mais on va le faire pareil. Non, là, ça marche pas comme ça. Et c'est ce qui s'est passé avec le débat en anglais. En fait, le Parti libéral était pas contre, mais tu sais, ça c'est sûr, c'est son électorat. Mais en même temps, ils étaient pas là.
On sait pas qui était contre dans la proposition du débat en anglais.
La CAQ était contre.
Oui, c'est ça.
Le PQ l'a évalué puis a dit non. QS était d'accord. Éric Duhaime était d'accord selon ce que j'ai compris. Mais les libéraux n'étaient pas si chauds à l'idée que ça. Puis moi, je me l'explique de la manière suivante, c'est que c'est du vote qui est acquis. Les anglophones, ils votent libéral. Donc, pour un chef francophone, préparer un débat en anglais... Moi, je fais des chroniques en anglais, là. Puis à chaque fois, je me dis, pourquoi je fais ça? OK, genre 20 minutes avant, je regrette toujours d'avoir accepté. C'est dur de parler de politique dans pas ta langue.
Ouais.
OK, c'est vraiment beaucoup de travail. Déjà, préparer un débat, point.
On les voit des fois au débat des chefs fédérales
avec
les chefs du bloc. Surtout quand eux, ils font en français aussi. Là, ça, c'était épouvantable. Mais même des fois, il y en a toujours un autour de la table. C'est souvent le chef du bloc qui, dans le débat en anglais, tu le vois que OK, il est correct, il se débrouille, mais c'est pas aussi acquis que les autres.
On est toujours moins sévère avec les autres qu'avec nous-mêmes. Ben oui. Mais il y a toujours aussi le risque de dire quelque chose pas tout à fait avec les bons mots. Mm-hmm. Tu sais, on est dans une société où on cancelle les gens facilement.
On suranalyse beaucoup les choses,
Puis là, on parle de langue, de laïcité, de... Là, tu dis pas le bon mot, tu te ramasses dans le trouble.
Des cinq chefs principaux, c'est lequel qui a le plus peur des débats, à ton avis?
C'est une excellente question. Parce que ça aussi, ça explique pourquoi il y a autant de débats. Pourquoi les partis ont autant dit oui? C'est parce qu'il n'y a pas de gagnant clair
d'avance
en ce moment. Okay? Donc, on a une vraie campagne. En 2022, on savait que la CAQ allait gagner. On est tout d'accord?
Il y avait la faveur.
Okay? Oui. Donc, François Legault, il avait l'avantage de faire le moins de débats possible, de se mettre le moins à risque. Puis surtout, ce n'est pas un débatteur exceptionnel. Puis tout le monde allait l'attaquer. Donc, il y a eu deux débats, that's it. Maintenant, quand on est dans une course où c'est assez morcelé, on dit une course à trois présentement, bien, ils ont chacun beaucoup à prouver. Qui a le plus à perdre? Bien, Christine Fréchette, elle est très connue. Ses politiques sont connues. Elle continue de gouverner jusqu'à la dernière minute. Moi, je trouve qu'elle n'a pas tant à perdre que ça.
Non.
En plus, les attentes ne sont pas si élevées par rapport à elle. Elle n'est pas connue pour être une grande débatteur. Puis pendant la course à la chefferie, je l'ai trouvée surprenante. Donc moi, je pense qu'elle va être à l'aise de faire ses débats. C'est sûr qu'elle doit porter le fardeau de l'usure du pouvoir. Elle va être la cible de beaucoup d'attaques. Mais en même temps, puis là, c'est un peu tabou en politique, mais quand tu as une femme en face de toi, tu peux pas y rentrer dedans comme tu peux rentrer dans un gars nécessairement. Fait que moi, je pense que ça va être assez compliqué de l'attaquer sans avoir l'air un peu moche, de faire de la politique moche. PSPP, très bon en débat.
C'est sûr. En tout cas, moi, j'ai...
Il est solide.
On connaît tous son intelligence, mais sa culture.
Il est très structuré.
Oui.
Il y a une argumentation qui est claire, qui est très, très fouillée. Donc, moi, je pense qu'il n'y a rien à perdre à faire des débats pour Saint-Pierre Plamondon, sauf s'il commence à être très négatif.
Oui, ou à avoir une réaction de faciès un peu excédée par certaines questions ou certaines affaires.
Il soit aussi bon qu'en 2022. En 2022, il était très bon.
C'est ça.
Éric Duhaime, il a tout à gagner. Lui, il essaie d'imposer sa force politique. Ruba Gazal, ça va être ses premiers débats. Donc, elle aussi, elle veut se faire connaître. Puis quand on regarde, les taux de popularité ne sont pas très élevés. Donc, pour moi, tout le monde a gagné. Charles Milliard, c'est un peu un point d'interrogation pour moi. Parce que à date, il n'a pas réussi à avoir un départ canon. On ne comprend pas trop c'est quoi sa vision politique. Donc là, moi, c'est sûr que je regarde ça et je me dis, ça va être l'occasion parfaite de nous expliquer qu'est-ce que tu veux faire avec le Québec? Parce qu'à date, moi, je comprends pas.
Ben, il y a pas grand-chose. Tu sais, c'est que il est encore beaucoup inconnu en général. Fait que la campagne va être bonne pour ça. Puis
c'était juste une occasion de faire première bonne impression. Là, il y a eu comme une première impression ordinaire, pas catastrophique.
Non.
Donc là, faut qu'il score. Là.
Oui. C'est pour ça que je pense que c'est lui, moi, à mon sens, qui a le plus à perdre, parce que de base, les libéraux ont quand même la marque qui est quand même affaiblie aussi par les différents scandales, mais du fait que tu as toujours l'occasion d'être à tout le moins l'opposition officielle avec l'équipe libérale. Puis présentement, les sondages vont bien, mais est-ce qu'il est capable d'amener ce parti-là jusqu'au pouvoir ou au contraire, il va les faire redescendre en troisième parce que la campagne va avoir été difficile pour un politicien qui n'a pas une grande expérience?
Exactement. Le manque d'expérience, ça paraît un peu.
Mais je suis d'accord avec toi que c'est lui qui a le plus à perdre, mais j'ai l'impression que c'est lui qui a le plus à gagner aussi. De mon point de vue, c'est comme... j'ai vraiment l'impression que l'exercice du débat pour Charles Millard, ça va être vraiment un sabre sur sa case.
Ouais.
Que ça peut vraiment... Tu sais, des fois, des débats, ça n'a pas nécessairement un gros impact sur la campagne électorale. Pour un politicien qui n'est pas encore si connu que ça de la classe politique québécoise, mais qui est quand même deuxième dans les sondages, j'ai l'impression que là, le débat va avoir une grosse importance pour les prochaines élections.
La campagne va avoir une grosse importance. Les débats vont avoir plus de poids qu'en 2022, à mon humble avis. Ça va être une campagne très, très intéressante à suivre. Il n'y a rien de gagné. Puis quand on regarde les sondages, il y a beaucoup de gens qui vont dire « ben mon intention, c'est de voter pour ce parti-là, mais c'est pas certain. » J'ai regardé un rapport des derniers sondages de Léger Marketing et on voyait que le vote n'était pas coulé dans le béton là, pour la plupart des gens. Donc, la campagne va vraiment, vraiment compter.
Puis on en parle parce qu'on vous rappelle que le débat des chefs, c'est ce soir. Non, c'est pas vrai.
D'ailleurs, moi, je serai de la soirée du débat de nouveau. Oui. Je sais que c'est moins dans les habitudes des gens. On a toujours tendance un peu à regarder les mêmes postes de télé, mais c'est aussi diffusé sur Crave. Oui. Puis sans vouloir faire de la grosse plug, c'est juste de dire que c'est très difficile d'aller rejoindre d'autres générations pour ces débats-là. Il y a aussi plein de gens qui font du contenu maintenant politique sur les médias sociaux. Je trouve que
dont
ça va être
qui se présente pour les libéraux.
Ouais, ben Farnell, évidemment qu'on connaît bien ici. Lambert Drainville aussi. Ouais. Alex Plick qui en fait beaucoup également. Moi, je trouve qu'aussi cette campagne-là, ça va être aussi la campagne des gens qui font du contenu numérique. Puis font les choses un peu différemment. Puis je trouve que ça enrichit beaucoup le débat
puis
politique.
Le vote, ce sera le 16 septembre, donc sur Nouveau. Puis, comme tu as mentionné, aussi sur Crave. Le 15 septembre du côté de TVA et le 23 septembre pour le dernier, le troisième, ça va avoir lieu à Radio-Canada.
Ça, moi, en ça fait, va être des grosses journées.
Trois en huit jours.
Aïe, aïe. Et on surveille aussi, est-ce qu'un des débats va être fait à Québec? C'était une des propositions d'Éric Duhaime. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. C'est notre capitale nationale.
Oui.
C'est
Bruno Marchand serait content,
puis moi aussi. Fait que let's go. J'espère qu'il y a quelqu'un dans les médias qui va lever la main pour dire OK, on le fait à Québec.
Mais ça, c'est pas encore déterminé, non. En fait. On fait juste faire les dates puis on continue.
Ce qui est déterminé, c'est que tout est à Montréal. Je te le dis tout de suite. De base, c'est toujours de même.
Fait que ça changera pas.
Mais si quelqu'un avait l'infrastructure pour le faire à Québec, moi, je trouve qu'Éric Duhaime a vraiment un bon flash. Puis tous les autres partis, évidemment, ne peuvent pas être en désaccord avec ça, franchement.
Merci, Antonine, pour ce dernier ultime caucus de la saison. Je sais pas quand est-ce qu'on te réentend sur
le retour.
Mais moi, je suis au retour tout le mois de juillet. Ça commence aujourd'hui, alors je change un peu de beat, mais n'importe qui peut m'appeler dans n'importe quelle émission s'il y a un sujet politique, n'est-ce pas? Appelez-moi!
Donc, on retourne à circulation, Mathias?
Oui, juste avant de partir en pause, on va faire un petit tour dans circulation parce que c'est compliqué malgré le fait qu'on est sur l'heure du midi puis qu'à matin... À matin, ça se passait bien. Mais c'est ça, à matin, ça se passait bien. C'est vraiment bizarre, ces temps-ci à circulation. Ouest, 20 Ouest, présentement, hauteur de Taniata, c'est difficile. Ça remonte jusqu'à Président Kennedy. En direction Est, c'est à hauteur de Taniata que c'est au rouge aussi. Laurentien, direction Sud, pour prendre Capitale, petit ralentissement. Il semble avoir de quoi qui se crée tranquillement, pas vite, sur Capitale, direction Est, à hauteur de Robert Bourassa. Charest, direction Est, pour prendre Robert Bourassa aussi, la sortie. Là, petit ralentissement dans le secteur. Sinon, s'il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021 par texto.
Dans On en jase, on revient dans les prochains instants avec un tour de table d'actualité. Puis et aussi, on va avoir plein de beaux petits sujets. Belle fun à vous jaser. C'est quoi le texto ici, Mathias?
418-971-1021.
Yes, n'hésitez pas. Jusqu'à 14h. Yes, bon midi tout le monde. Merci d'être là. Boulevard 102-1, 25 juin 2026. Lendemain de fête nationale, de fête du Québec, où ça a été quand même très festif cette année. Je dois dire que de ce qu'on a vu passer aussi, c'était une des belles fêtes nationales des dernières années, surtout grâce à la météo. Là.
Mais dans les dernières années, on n'avait pas été gâtés.
Ben c'est ça, ça part de là. T'sais. L'an passé, ils ont dû annuler le spectacle sur les plaines pour une mauvaise température puis orage. Puis l'année d'avant, il y avait eu un gros déluge aussi.
Non,
là.
C'est ça.
Ça s'était fait sous la grosse pluie. Fait que tu sais, dans ce temps-là, un événement gratuit, t'as jamais beaucoup de gens qui vont se déplacer quand il fait pas beau.
En partant.
Disons, mardi soir, faisait très beau à Québec.
Puis ça a paru.
65 000.
65 000, près de 70 000. On attendait 40 000 personnes sur les plaines. On a eu 65 000 finalement.
Ouais, vraiment.
Pis, moi, je trouve ça cool.
De toutes les générations aussi, un spectacle bien monté avec un Pierre-Luc Funk qui fait l'unanimité aussi. Donc, vraiment, tant mieux si vous en avez bien profité de cette fête nationale. Donc, par la suite, ça va être la fête du Canada la semaine prochaine.
Ça va boire un peu moins probablement.
Mais tant mieux, c'est le fun de voir toutes les générations. On sera rassemblés comme ça autour donc de la Saint-Jean-Baptiste. On fait un tour d'actualité, Mathias. Donc, qu'est-ce qui retient l'attention aujourd'hui?
Des pompiers ont été appelés à intervenir vers 1h du matin dans le secteur de Saint-Pierre-de-Dé-d'Orléans. On parle d'un violent incendie qui a complètement détruit un immeuble à logement. C'est 9 personnes au total qui se retrouvent à la rue en ce moment en raison de cet incendie-là. Des policiers qui se sont déplacés sur place. Tout a été mis sous contrôle vers 2h20 du matin. Les différents locataires qui ont été pris en charge par soit un membre de leur famille ou encore par la Croix-Rouge. Le gouvernement Fréchette lance aujourd'hui l'appel d'intérêt international pour la réalisation d'un troisième lien à l'Est. Puis vous rêvez pas, on n'est pas en 2022, c'est bien ça la nouvelle. Un appel d'intérêt pour un troisième lien à l'Est, le projet, une collaboration avec le privé que Mme Fréchette voudrait, l'appel international qui va être d'une durée de 45 jours pour un lien qui, selon les informations du Journal de Québec, relierait à partir de la rive sud la route Lallemand vers l'autoroute Dufresne-Montmorency sur le côté nord de la chose. Toutefois, malgré le fait que l'appel d'intérêt international est déjà lancé, il va falloir attendre d'ici le printemps 2027 pour en connaître le tracé exact et les coûts de ce projet.
J'essaie de revoir la dernière fois qu'on avait fait cet appel d'intérêt international. Okay, on l'a fait en novembre 2024,
oui.
La première fois, ou peut-être une autre fois.
Ouais, c'est ça, c'était pas la première fois, je pense. En 2022, on l'a fait, je pense, en 2024 aussi.
Bon, 2024, en tout cas, c'est sûr. Geneviève Guilbeault avait dit à l'époque, 23 entreprises ont déposé une proposition recevable dans le cadre de cet appel d'intérêt et en disant, hey, il y a beaucoup d'entreprises, même à l'international, qui veulent travailler avec nous, qui veulent faire le troisième lien tel qu'on le connaît, mais ça n'a rien donné, évidemment, parce que politiquement, ça ne s'est jamais vraiment réglé, cette unanimité-là à trouver au sein du troisième lien.
L'état d'urgence a été déclaré au Venezuela à la suite de 2 puissants séismes de magnitude de 7.2-7.5. Pour l'instant, on parle d'un bilan de 164 morts et 1000 blessés. Sauf que les prochaines heures vont être cruciales. Notamment, l'Institut géologique des États-Unis estime à 42% les chances que le bilan se retrouve plutôt entre 10 000 et 100 000 morts lorsque tout sera réglé, ce qui paraît excessivement élevé. C'est sûr qu'on va suivre ça pour vous au cours des prochaines heures. La Ville de Québec refuse de fournir certains documents concernant les coûts et les réparations nécessaires sur la fontaine Jean-Paul Lallier. On le sait, okay. Le Journal de Québec a fait une demande d'accès à l'information,
c'est
justement.
C'est au parc Jean-Paul Lallier, ça?
Oui, exactement. La fontaine ne fonctionne plus.
Non.
Okay, la fontaine ne marche plus. Puis pour vous donner une idée, sur les 23 luminaires qui étaient présents au début, il en reste que deux. On dit que le béton est en très bon état, mais que les fondations sont abîmées. Sauf que là, on n'a comme pas voulu fournir toutes les études sous peine, parce qu'on disait qu'on était lié à des contrats. Donc, on devrait voir plus de détails au cours des prochaines années parce que le maire Marchand a dit qu'on voulait réparer la fontaine, mais qu'on allait attendre les travaux du tramway.
Exact. Donc, il passe dans le secteur à cause de la trémie qui, justement, sort de là, dans le sous-sol de la haute ville à la basse ville. Puis, je pense que... Je sais pas si c'est pas un calcul quelconque, mais déjà qu'on est l'objet de beaucoup de critiques dans Saint-Roch, puis du côté du parc Jean-Paul Lallier pour peut-être la malpropreté du secteur et justement, comme tu dis, avec la fontaine aussi qui fonctionne pas. Je sais pas si ça a pas été... en tout cas, le maire de Québec est certainement heureux de voir que les travaux du tramway dans le secteur sont devancés à l'automne prochain. On va commencer déjà là, ces travaux-là dès l'automne, ça a été devancé, mais le maire, il disait, on attend de voir pour essayer d'épiquer un froid quand est-ce qu'il commence les travaux, on peut refaire deux choses deux fois. C'était ça encore.
Oui, exactement.
Disait,
c'est qu'on veut pas, le refaire pour
devoir
le détruire.
Pour que les travaux le défassent et qu'on le refasse.
Ouais, exactement.
Fait que c'est logique. Donc, tant mieux si, d'un côté, les travaux du tramway avancent pour que ça aille d'avant aussi.
Annonce de candidature pour la CAQ dans Terrebonne et Les Plaines. Pour Terrebonne, on parle de Valérie Doyon, conseillère municipale et présidente du conseil municipal de Terrebonne. Et pour Les Plaines, Fatou Diop, une entrepreneure et leader communautaire du secteur. Ça va être deux chaudes luttes entre la CAQ et le Parti québécois dans les deux circonscriptions. Le PQ qui mène présentement dans les deux selon les dernières projections de QC 125. Et je termine avec... le recueillement qui a eu lieu hier du côté du quartier Côte-des-Neiges de Montréal. Les festivités de la Saint-Jean qui ont été annulées dans le secteur et ont laissé place aux funérailles des deux victimes de la fusillade, autant pour celle de Mohamed Lamine Benredouane, le policier, que pour celle de Michael Mizrahi. Des centaines de personnes se sont déplacées sur les lieux.
Midi 52 dans On en jase. Mon nom est Gab Marino. C'est donc remplacement aujourd'hui des acteurs habituels de cette émission. Mathias, bien sûr, qui est un habitué. Alors, jusqu'à 14h, ça se poursuit. Puis avant de passer à notre prochain invité dans les prochaines minutes, je veux également parler d'un événement parce qu'on en jasait tantôt hors d'onde. Mathias, tu trouvais ça tellement intéressant de voir peut-être le contexte des différents endroits sur ce type de gestion-là publique, parce que le comparatif à faire avec Québec serait absolument dramatique si ça nous arrivait, OK? Ce qui arrive, c'est que dans le monde du country, qui est genre, ben parce que moi, à Weekend, je suis quand même un animateur du côté de Weekend à 91.9. Je suis beaucoup la musique country parce que je suis l'animateur de la zone New Country. C'est ma passion depuis 12 ans.
T'es la référence country au Québec.
T'es gentil. On fait ça. Donc, je vois toujours passer plein d'affaires. Et il y a un festival majeur au Canada qui est dans la catégorie des country lovinières du Lasso Boots and Hearts qui est en Ontario. Celui-là s'appelle Country Thunder et c'est en Alberta. Donc, c'est quand même un endroit fertile, un terreau fertile pour la musique country avec le Stampede en plus qui est dans les mêmes dates. Cet événement-là a lieu à Calgary. Et il devait commencer vendredi. Mais hier, on l'a annulé. Tout simplement. On a dit « Hey, tu sais, là, en fin de semaine, vous pensiez voir les Red Clay Strays, là? Mais ça n'aura pas lieu. »
Une petite bière dans les mains.
Ça, là, ça, c'est cochon, Red Clay Stray. Vous deviez voir l'aîné Wilson en fin de semaine. On va lui dire à l'aîné, pas besoin, prends pas ton passeport, viens pas. C'est des plus grands noms, là.
Ah oui. Taper du pied, une petite bière dans les mains, ça, pour des personnes qui avaient prévu y aller, oui, ça aurait été une fin de semaine fantastique.
C'est des millions de dollars à faire amener ces vedettes-là internationales, puis à deux jours d'avis, je sais pas comment ils vont se défendre de ça pour l'annuler, puis ne pas avoir peut-être à payer les honoraires. Je pense qu'ils vont devoir les payer, mais et c'est surtout les raisons invoquées pour dire on peut pas avoir lieu. C'est que les autorités du festival ont ciblé les obstacles à la sécurité et aux opérations créées par la ville. Alors, on blâme à 100% la ville de Calgary et le maire pour dire « Nous, notre festival a lieu au centre-ville. » Présentement, il y a trop de travaux. Il y a des efforts, des travaux de construction autour du site du festival qui font en sorte qu'on ne peut pas tenir sécuritairement ou du moins, on ne peut pas assurer également que notre événement soit de classe internationale parce que c'est rendu trop complexe au centre-ville de Calgary. Puis la ville ne nous aide pas pantoute à mitiger les problématiques de construction. Il y a un tramway là-bas qui se fait. Oui. On dit aussi qu'il y a des nouvelles restrictions sonores à Calgary qui rendent impossible la tenue de l'événement en 2026 et différentes raisons comme celle-là pour dire finalement c'est à couteau tiré là, entre l'organisation puis la ville. Maintenant, c'est vous nous empêchez de faire du Country Thunder un événement qui a beaucoup de succès. Et imaginez le même scénario à Québec.
Mais c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de parallèles à faire, oui, entre ce qui se passe à Calgary puis ce qui se passe à Québec. Je dirais pas... Parce que tu l'as dit, imaginez le scénario si on annulait le Festival d'été de Québec.
Puis que les gens de Bleu Feu, puis c'est un scénario hypothétique, mais l'équivalent ici, parce que c'est quand même un festival majeur à Calgary, c'est de dire Bleu Feu annule le Festival d'été de Québec et blâme la ville et les travaux du tramway parce que ça va devenir impossible de circuler en haute ville. Tu sais, ou record, puis on a déjà vu des plaintes comme celle-là liées au bruit pendant le festival d'été, surtout des gens qui habitent là. Tu sais, si Bleu Feu se fait dire par la ville, hey, vous pouvez pas aller à plus que 70 décibels, parce que c'est ça à Calgary.
Oui.
Ben, Bleu Feu va faire, ouais, mais ça n'a pas de sens, là. C'est un spectacle, c'est plein, ça fait du bruit, ça résonne partout, tout ça. Et donc, la différence, c'est que là-bas, l'organisation puis la ville s'entendent pas. Puis ils ont eu des discussions, mais la ville de l'autre côté se défend en disant non, non, nous autres, on a eu beaucoup de réunions avec le festival, on leur a dit comment ça allait se passer, ils sont pas supposés être surpris à deux jours de l'événement qu'ils auraient dû préparer mieux leur festival, puis les deux se blâment, mais heureusement, ça nous arrive pas. Bleu Feu puis la ville s'entendent bien.
Ils s'entendent bien.
Mais c'est fascinant.
Mais le parallèle que je trouve intéressant, c'est que là, on a une organisation qui annule un festival du côté de Calgary. On blâme la gestion des travaux de construction de la ville. Qui est allé, il y a de cela, 3 mois environ, du côté de Calgary pour qu'on nous conseigne sur la façon de gérer ces travaux routiers à venir? Le maire Marchand, il y a de cela 3 mois, a fait une mission du côté de Calgary.
Pour s'asseoir. Aller voir.
Pour dire, voici comment on gère les travaux, voici comment ça a fonctionné pour nous autres. Puis là, 3 mois plus tard, on se rend compte, crée, mais s'il y a des gros festivals qui n'ont pas le choix d'annuler leur programmation complète à Calgary, on devrait-tu vraiment les prendre comme exemple pour gérer des travaux ici?
C'est une question intéressante, c'est une question pertinente. C'est pas fini l'histoire de Country Thunder parce que de la manière dont c'est écrit et de la manière que la ville également puis que le maire là-bas a réagi, il y a comme de quoi de pas dit. Il y a anguille sous roche, il y a un problème peut-être du côté de l'organisation quelconque, on verra. Là. Mais de un, le maire, il dit c'est pas vrai. Le niveau sonore n'a pas été abaissé, modifié pour ce festival-là, d'autant plus qu'on leur donnait une espèce de clause grand-père de passe-droit de c'est correct, mais ils ont décidé de l'invoquer dans leur raison. Il dit c'est pas vrai. Puis il dit les travaux de... Parce que là, c'est dérivation d'eau, là, c'est de l'affaire de l'aqueduc puis tout ça. Puis ça, c'est un aspect sécuritaire, j'imagine, de la tenue d'un festival. Tu dois offrir de l'eau et des points d'eau. Mais avec les travaux, là, c'est difficile de les mettre en accès à ce qu'on comprend. Puis le maire, il dit, rien n'a commencé cette semaine, ça s'est pas fait du jour au lendemain, on leur avait bien expliqué la situation. Et il dit, c'est une affirmation grave que Country Thunder avance, elle est fausse, il faut des faits pour la confirmer. Fait qu'on verra, là, parce que je pense que d'un côté comme de l'autre, il va peut-être avoir poursuite ou encore on va devoir judiciariser tout ça, c'est tellement majeur comme décision. Mais bref, très intéressant que de voir ça qui arrive dans une ville qui a beaucoup de travaux, en espérant que nous, ça soit pas... Je pense pas que c'est un scénario qui est envisageable et envisagé, mais... ça arrive même ailleurs.
Mais pour l'instant, non. Mais là, les travaux vont s'intensifier. On va espérer que l'administration gère mieux que ce qui se passe là-bas, ou du moins qu'il y ait une meilleure entente. Puis ça semble être le cas jusqu'à maintenant avec les différents organismes qui organisent les festivals.
Puis la comparaison que j'ai eue en lisant ça, ça me faisait beaucoup penser en fait au témoignage de Carl-Emmanuel Picard de Lanty récemment. Parce que ça ressemble pas mal à ça. En voulant dire, il y a des travaux, mais présentement, c'est tellement complexe de dire à tous tes fournisseurs de services, OK, passe par là, passe pas par là, les travaux, c'est de telle heure à telle heure, puis ça va être compliqué, puis ils sont laissés à eux-mêmes. Et donc, c'est peut-être un peu ça. Là. Ce que Carl-Emmanuel a vécu ici en Onde, puis ce qu'il vit maintenant avec Lanty par rapport aux travaux, je pense que c'est un peu ce que les organisateurs de Country Thunder vivent à plus grande échelle, parce que c'est quand même des milliers de festivaliers puis des millions de dollars en jeu. Fait que c'est un exemple à suivre, à regarder pour le futur à Québec avec les prochaines années de travaux importants du tramway. Merci d'être là. Ah, petite circule?
Ouais, on va aller faire un petit tour. Là. C'est difficile malgré le fait qu'on n'est pas sur des heures de pointe. 20, direction ouest, ça part à Taniata. Ça remonte entre, je vous dirais, chemin des Îles et président Kennedy. C'est au rouge dans le secteur. En direction est, entre Taniata et avenue des Églises, il y a un ralentissement aussi. Capitale, direction est, dans le secteur de Robert-Bourassa, c'est au rouge, Laurentien, direction sud pour prendre capitale, un peu d'attente. Henri IV, direction sud à hauteur de Charest en raison des travaux dans le secteur de chemin Sainte-Foy, petit ralentissement. Et Charest, direction est, entre Robert-Bourassa puis Duplessis, je dirais, il y a des petits ralentissements par-ci, par-là, il y a quoi que ce soit d'autre. 418-971-1021 par texto.
Eh oui, bien sûr, et merci de vos textos aussi par rapport à cette émission aujourd'hui. Édition limitée de On en jase avec Gab et Mathias. Au retour de la pause, on parle de cette initiative des produits du Québec qui font certains scénarios en disant si tout le monde dépensait 25$ de plus en produits locaux, ça serait excessivement bon pour l'économie. À quel point? Bien, on en parle avec Elfie Morin, DG des produits du Québec, au retour de la pause.
Jusqu'à 14h.
Un peu passé 13h à Boulevard 102.1. Merci d'être des nôtres en cette belle journée ici à Québec. Le trafic, c'est encore compliqué quand même, mais la météo, ça va très bien avec un 22 degrés maintenant. Même 23. Je viens de le mettre à jour.
Oh. On a gagné un degré.
Ben, regarde donc ça. 14 ce soir et cette nuit, au minimum 40% de risque d'averse. Demain, une journée surtout pluvieuse avec 17. Et samedi, ça a l'air nuageux, mais tu sais, annulez rien pour ça, là, ça va quand même être pas pire. Et dimanche, c'est 23 avec une belle journée ensoleillée pour votre week-end. Parce que oui, on est bien jeudi, on n'est pas lundi, oubliez pas.
Ouais, c'est ça, faut pas être trop mêlé.
Vraiment mêlé.
Juste vous signaler sur la route Charest direction est, il y a présentement un accident. Pour sortir sur Robert-Bourassa, c'est la voie de droite qui est présentement bloquée. Donc, armez-vous de patience. Ça crée un ralentissement dans le secteur.
Quand vous faites l'épicerie, quand vous achetez différents produits ici au Québec, parfois, vous voyez ces grandes affiches et sinon ces pictogrammes sur les différents aliments que vous consommez. C'est donc l'approbation produit du Québec. Et aujourd'hui, on a précisé dans différents articles que dépenser 25 $ par semaine en achats locaux, ça peut vraiment transformer l'économie du Québec. C'est un petit geste pour les citoyens, mais ça pourrait vraiment faire du bien à l'économie. Et pour en parler, ben, c'est celle qui est justement directrice générale des produits du Québec, Elfie Morin. Bonjour, Mme Morin.
Bonjour à vous.
Alors, ce matin, quand même un constat important pour l'économie que vous êtes au courant depuis quelques années, mais 25 $ par semaine en produits québécois, ça peut générer jusqu'à 3 milliards de dollars en retombées économiques par année.
Qui représente 36 fois l'impact économique du Festival d'été de Québec. Fait que, tu sais, ça vous donne une idée d'ampleur du phénomène. Puis je vais me permettre de préciser, cet exercice-là a été fait en effectuant des simulations de changement de comportement, de prioriser l'achat québécois au détriment du produit importé. Donc, ouais. On n'est pas en train de dire aux consommateurs « achetez plus ». On leur dit « ben remplacez peut-être certains produits pour des produits québécois ». Puis en plus, ici, on le fait sur des produits non alimentaires seulement. Fait que tantôt, vous parliez ouais. de l'épicerie et tout ça. Fait qu'on n'a même pas considéré l'épicerie. Donc, si jamais on faisait une telle étude avec Aliments du Québec, par exemple, qui est la référence en épicerie, bien, imaginez les retombées qu'on pourrait avoir. Là, ça serait probablement phénoménal.
C'est sûr que le réflexe, c'est de penser à l'épicerie. En effet, vous avez raison. Parce que des produits du Québec, vous en avez également des pictogrammes comme ceux-là dans différents endroits qui ne sont pas des épiceries, j'imagine?
Bien, c'est surtout que nous, les produits du Québec, c'est effectivement ça. Nous, on est une référence pour tout ce qui ne se mange pas. Fait qu'en gros, ce sont des références, des logos de marques de certification que vous pouvez retrouver devant des produits non alimentaires. Puis la différence avec n'importe quel autre logo, c'est que derrière nos logos, il y a des définitions claires de ce que représente un produit, soit conçu, soit fabriqué ou produit. Mm-hmm. Puis en plus, il y a un processus de vérification. Ouais. Fait que ça fait en sorte qu'on évite de tromper le consommateur avec peut-être une définition qui est différente. Tu sais, des fois, on voit un logo québécois, puis pour nous, comme consommateurs, ça peut vouloir dire que le produit il est 100% transformé ici, mais pour l'entreprise qui a posé le logo, ben peut-être que c'est juste le logo qui a été mis ici. Ouais. Tu sais, c'est peut-être pas ça. Fait que c'est là qu'il y a une grande différence pour les produits du Québec avec ces trois marques dans tout ce qui est non alimentaire. Puis pour Aliments du Québec, dans l'alimentation, c'est exactement la même chose. C'est juste que eux, c'est l'alimentaire.
On l'avait vu aussi. Pardon, on l'avait vu aussi avec les au début l'an passé de la guerre commerciale avec les États-Unis, des produits canadiens qui avaient maintenant la cote, puis des entreprises qui ajoutaient une feuille d'érable même si ça n'avait pas rapport.
Exact.
Donc c'est un peu la vérification que vous faites avec produits du Québec.
Exact, mais c'est à ça qu'on sert. T'sais, on amène ouais. un peu de la crédibilité derrière cette jungle-là, parce que vous l'avez dit, depuis le phénomène de la guerre tarifaire, il y a beaucoup d'intérêt envers les produits locaux. Donc, les entreprises veulent bien faire, les détaillants aussi, mais des fois, à trop vouloir, on n'aide peut-être pas tout le temps. C'est là qu'on vient aider, nous, de notre côté.
Mais la question principale, ou du moins à chaque fois qu'on parle de ces changements d'habitude-là, que de prendre un 25 $ qu'on dépense dans n'importe quelle entreprise pour acheter n'importe quoi, un meuble, qui viendrait d'ailleurs, ou encore un meuble produit au Québec. L'argument principal, c'est toujours de dire, mais si je suis un consommateur qui en a à côté jusqu'au cou parce que tout coûte cher ouais. maintenant, je vais choisir le produit qui est le moins cher, au détriment peut-être du produit du Québec. Est-ce que maintenant, ouais. on approche de la parité sur les prix entre les produits du Québec puis les produits internationaux?
Bien, ça dépend des catégories de produits. T'sais, je vous dirais que pour tout ce qui est non alimentaire, dans plusieurs catégories, donc dans l'étude, on en couvre beaucoup. Là, vous avez parlé du meuble, mais on couvre aussi le santé-beauté, on couvre les équipements sportifs, on couvre la quincaillerie, par exemple.
J'ai vu que vous avez parlé de peinture aussi, ça. Je savais pas. Je peinture pas souvent non plus, mais il y a de la peinture produite au Québec, puis j'imagine que c'est bien indiqué.
Oui, ben en fait, c'est un excellent exemple. La semaine prochaine, il y a des gens qui vont déménager.
Oui.
Donc, on va acheter de la peinture, on va acheter des produits d'entretien ménager. Tu sais, dans l'offre québécoise, peinture MF, peinture Laurentide, peinture Donald, ce sont toutes des peintures qui sont fabriquées ici. Donc, moi, je dirais que cette offre-là, elle est probablement très comparable au niveau du prix, au niveau de la qualité aussi. Fait que, tu sais, quand vous disiez, des fois, c'est plus cher, c'est vrai que des fois, on a la perception aussi que c'est mm-hmm. plus cher parce qu'on va comparer un produit haut de gamme québécois avec un produit bas de gamme importé, puis on va venir à cette conclusion-là. Et c'est pas possible pour tous les consommateurs non plus hein, de faire certains écarts d'absorber certains écarts de prix, et c'est correct. Mais dans plusieurs catégories, il y en a de l'offre de produits québécois comparables, dans plusieurs catégories.
Puis,
il y a de l'offre, mais pour avoir ces impacts-là sur l'économie, ben faut inciter le monde à acheter plus québécois quand même. Comment on fait ça?
Bien, on le fait en rendant l'information visible. C'est la première des choses, là. Moi, j'encourage les entreprises à mettre de l'avant leur provenance. Évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse et je vais parler de provenance certifiée, donc de produits qui ont été certifiés par notre organisation ou même celle d'Aliments du Québec. C'est la meilleure façon, puis de collaborer avec des détaillants aussi qui disent, ben tu sais, moi, je vais donner une place aux produits du Québec en termes de visibilité. On le fait déjà avec, nous, de notre côté, 26 partenaires détaillants. Si on parle de quincaillerie, moi, je travaille avec BMR, Patrick Morin, je travaille avec Canac aussi, pour que eux puissent aussi identifier pour le consommateur, parce que c'est pas toujours visible hein, sur l'emballage, c'est pas toujours facile. Fait que c'est vraiment une question de rendre l'information accessible pour pas que le consommateur ait non plus à faire des recherches exhaustives.
Je me pose la question aussi du côté du détaillant lui-même qui décide de faire ces achats-là pour les mettre dans son magasin. J'imagine que la motivation principale est unique pour justement présenter un produit qui n'est pas du Québec. C'est soit la disponibilité, parce qu'il n'y a pas de tout qu'on produit au Québec. Il y a des choses qui sont plus difficiles à trouver. Puis sinon, à part ça, c'est juste pour peut-être offrir quelque chose à meilleur prix pour les consommateurs, parce que clairement, sinon, ça va toujours, on doit toujours prioriser le produit du Québec. Il n'y en a pas d'autres des raisons, j'imagine.
Bien, il y a des questions de variété aussi. Tu sais, okay, il y a des questions dans l'offre québécoise d'une certaine catégorie. Peut-être qu'il y a des différences, tu sais, si on parle de santé, beauté, de fragrance, de performance produit. Peut-être qu'il y a aussi des préférences personnelles qui pourraient expliquer le choix. Mais dans plusieurs d'entre elles, comme vous dites, quand l'offre est comparable à prix comparable, j'aurais tendance à dire qu'on a beaucoup d'avantages à prioriser l'achat québécois. Puis l'objectif de cette recherche-là, c'est justement de le démontrer concrètement qu'est-ce que ça peut donner là, si tout le monde met l'épaule à la roue. Là.
Mais 3 milliards de dollars en retombées économiques, si chaque Québécois dépense 25 dollars de plus en produits du Québec par semaine, vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. Mais tu sais, des fois, si tu achètes un meuble à 2000, tu as déjà réglé une bonne partie de ton année en déplacement donc de dépenses qu'on fait peut-être sur des produits de l'international, mais qu'on s'en rend pas compte tout le temps. C'est quand même une étude très intéressante. C'est bien de le rappeler aussi. Par rapport aux dernières années, je sais qu'il y a eu un grand mouvement pour ça, les produits du Québec, dans la pandémie. Puis qu'on avait le panier bleu qui avait voulu être mis en place par rapport à cet appétit, du moins, pour acheter davantage ici. Là, on est quand même dans une couple de bonnes années pour l'achat. Est-ce que vous avez vu ça sur les statistiques dans les dernières années, les augmentations?
Bien, nous, on existe seulement depuis 4 ans. Okay. Fait qu'on a été notre naissance arrive dans une période post-pandémique ou vers la fin de la pandémie. Fait qu'on n'était plus dans l'espèce d'élan très, très fort là, qu'il y a eu en 2020, le 2021, où on était vraiment très... Fait qu'on a vécu une arrivée dans un intérêt qui était tout à fait adéquat. Mm-hmm. Et là, nous, ce qu'on a vécu, c'est effectivement quand la guerre tarifaire a commencé, ben là, on avait des comportements très, très en faveur de l'achat local, mais de façon excessive. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais les gens magasinaient quasiment qu'un fichier Excel. Tu sais, il faut pas que j'achète ça, puis comment c'est fait. Fait qu'il y avait vraiment, vraiment cette rigueur-là qui, tu sais, ça peut pas rester comme ça à long terme. Mais l'intérêt est quand même resté. Puis il y a quand même, tu sais, des gens qui ont fait des découvertes à l'intérieur de ça, puis qui ont commencé à changer des comportements. Moi, je le vois parce qu'on a plus d'entreprises adhérentes. On en a 335 maintenant qui ont certifié 150 000 produits ou à peu près. Puis je le vois dans nos partenaires détaillants aussi qui ont envie de nous mettre en valeur parce qu'il y a encore un intérêt. C'est peut-être pas ce que c'était en février 2025, mais c'est quand même encore présent, là.
Bon, bien, merci beaucoup pour ce moment aujourd'hui. Vous avez une journée chargée, Mme Morin. Merci pour vos lumières par rapport aux produits du Québec. Puis je vous souhaite une belle fin de journée.
Merci, bonne journée à vous.
Merci, bonne journée. Elphie Morin, directrice générale donc des produits du Québec, qui aujourd'hui déclare que si chaque Québécois dépensait 25 $ de plus par semaine en achats locaux, puis c'est pas de dépenser davantage que ce que vous faites déjà. Là, t'sais. Mettons qu'on dépense 500 $ par semaine, c'est de dépenser encore 500 $. C'est que si vous en dépensiez 300 en produits internationaux, dépensez-en maintenant 275.
Et 25 en produits locaux.
Et 25 de plus que ce que vous faisiez en produits locaux, ça ferait un impact majeur sur l'économie. Ça soutiendrait 29 000 emplois annuellement et 180 millions de dollars en revenus fiscaux.
C'est énorme. Ouais. Seulement 2 $ par famille. 2 $ par famille, c'est 2200 emplois.
Fou, hein?
Puis 230 millions de dollars supplémentaires sur le PIB. On a tellement... Tu sais, on s'en rend pas compte quand on fait nos achats, on réfléchit pas trop à ça, Mais en tant que société, tout le monde ensemble, individuellement, si on ferait tout un, si on faisait tout un effort supplémentaire pour justement encourager local, ça aurait tellement un effet massif sur notre économie.
Tu sais, c'est ça. On n'a pas tout, là. Mettons, moi, mes ananas.
Non, c'est ça.
Ça va être plate. De l'île d'Orléans, ils n'en produisent pas encore.
Malheureusement.
Mais puis du linge, c'est difficile aussi. Ça, je le disais dans la presse par rapport à tout ça. Là, tout ce qui est vêtements, mode.
C'est que c'est
pas...
plus cher tout le temps.
C'est sûr, parce que les normes sont tellement atroces, on va le dire de même, ailleurs, dans différents pays où c'est produit. Puis, tu sais, tout ce qui est Chine et Temu et vente de mode ultra rapide et tout ça, tu sais, ça, c'est vraiment pas bon pour l'économie, en tout cas. Individuellement, ça peut être le choix de plusieurs personnes qui nous écoutent, puis c'est correct aussi parce qu'on a tous une limite de notre portefeuille, de ce qu'on peut absorber, puis il faut se vêtir. Je préfère qu'on se vêtisse, qu'on laisse tomber cette portion-là. Fait que à choisir, c'est je vais prendre des gens vêtus avec du chine ultra rapide que des gens tout nus partout. Mais évidemment, par la suite, tu sais, ça, c'est un bout qui est plus complexe. Mais dans d'autres produits, tu sais, à l'épicerie, puis elle n'est pas des aliments du Québec, mais ça, c'est un autre bon success story aussi. Tu sais, si la différence est d'une coupe de scène, pour toi, bon, peut-être que le produit va être meilleur aussi s'il est du Québec, surtout qu'il est plus frais quand on parle de fruits et légumes. Mais après ça, si c'est beaucoup plus cher, là, peut-être que tu fais une sélection différente. Mais après ça, tu essaies de penser, OK, c'est pas juste pour moi ou encore sur ça, c'est juste l'impact que ça a, ce petit geste-là supplémentaire, au même titre que le recyclage qu'on va faire puis de mettre les bonnes affaires dans le bon bac, là. C'est des petits gestes comme ça qui font qu'au final, on vit dans une plus belle ville.
Puis on n'a pas toujours le réflexe de le faire. Moi, dans mes habitudes d'achat, c'est « OK, est-ce que ça répond à mes besoins?
Ouais.
Puis c'est quoi le prix? » C'est ça, mes réflexes d'achat. Ça se limite à ça.
Mais tu sais, puis l'exemple, c'est, mettons, tu as quelque chose qui vaut 25$,
oui.
Puis il vient ailleurs. Mais tu as quelque chose qui est à 30$ qui vient d'ici. Est-ce que ce 5$-là, pour toi, ça te fait sortir?
Ben, c'est ça que je te dis, j'ai pas de réflexe actuellement.
OK, tu vas prendre le moins cher tout le temps?
Je m'en rendrais même pas compte. Ben, je verrais lui à 25, je partirais avec lui à 25 sans me poser plus de questions.
C'est sûr.
Tu sais, c'est que quand on regarde ça, on commence pas à se poser plein de questions. Lui, viens-tu du Québec?
C'est ça.
On voit de 25$, on part avec la réflexion finie là.
Ouais.
Mais des fois, peut-être qu'on devrait prendre, puis je m'inclus là-dedans, prendre un peu plus conscience puis essayer de pousser ce processus d'achat-là, la réflexion derrière nos achats, justement.
Ouais. Puis c'est rare, ben c'est ça. Puis je sais pas à quel point les produits du Québec peuvent être, sans s'en rendre compte, moins chers que le produit de l'international. Il doit en avoir, c'est sûr qu'il y en a.
Probablement.
Fait que ça nous arrive de par accident acheter des produits d'ici aussi, mais peut-être moins que des produits de l'international. Fait que c'est la question, c'était juste de garder les yeux ouverts sur cette réalité. Oui.
Oui, sur la route 20 direction ouest à hauteur de Taniata jusqu'à Président Kennedy, c'est au rouge. En direction est, entre Taniata et Avenue des Églises, au ralenti également. Il y avait un accident un peu plus tôt sur Charret. Je vous dis si c'est réglé ou pas. Non, c'est toujours pas réglé. Charret direction est pour sortir sur Robert Bourassa en direction nord. La voie de droite qui est présentement bloquée. Il y a un accident sur place, donc forcément, ça crée un ralentissement dans le secteur. Capitale direction est également à hauteur de Robert Bourassa. C'est au rouge.
On revient dans quelques instants avec un tour de table d'actualité aussi, puis on a quelques petits sujets intéressants pour vous, les auditeurs. Merci d'être là dans On en jase jusqu'à 14h avec Gab Marino et Mathias Turcotte.
Jusqu'à 14h.
1h25 minutes dans On en jase à Boulevard 102.1. Gab Marino en remplacement aujourd'hui de vos acteurs habituels, mais Mathias est là quand même, inquiétez-vous pas.
Remplacement, comment tu dis ça, là, une émission?
C'est une édition limitée.
Édition limitée.
C'est Limited Edition, c'est profitez-en là parce que ça n'arrive plus. c'est une nouvelle saveur.
Nouvelle saveur qui ne dure pas longtemps.
On vous met en bouteille. Puis en plus, c'est le festibiaire de Lévis qui commence. Fait que je me suis inspiré de ça un peu. Tu sais, les brasseries, les micro-brasseries font toujours ça, là. T'as une bière qui est aimée, là, ils vont t'en...
Ils l'enlèvent.
Ils l'enlèvent, puis là, ils arrivent un mois et demi après, ils la remettent, mais avec une petite twist, mettons là, estival.
Oui.
Fait que là, ça va être la même bière, mais avec un petit jus de lime. Là, après c'est ça, édition limitée pour cet été.
Puis après ça, ils l'enlèvent, puis ils la remettent pour la période hivernale.
C'est ça. C'est la même affaire.
Mais là, c'est la bière de temps des fêtes. On va mettre une autre petite twist.
C'est du marketing, Mathias. C'est quelque chose de nouveau. Moi, en plus, je me fais tellement avoir par ces affaires-là, je suis complètement coupable. Surtout les chips. OK, les chips. Tu sais, Lay's, là, ils t'en font-tu des marques puis des sortes puis des... ils ont les classiques, le ketchup, ordinaire, assaisonné puis tout.
Mais à chaque événement, ils sortent des nouvelles saveurs.
Puis moi, je me fais tout le temps avoir parce que je suis comme... Je suis sûr que j'aimerais pas ça. crème sure et ciboulette ou, je sais pas trop, bacon boréal à la poutine, whatever. Mais je suis curieux de savoir ce que ça goûte. Comprends-tu?
Ouais.
Fait que je vais comme l'acheter en me disant, ben, crif, je veux savoir ça goûte quoi, moi, ça.
C'est tout le temps décevant.
Des saveurs internationales puis d'affaires que j'ai jamais goûté de ma vie. De un, pour savoir si ça goûte ce que c'est supposé. Puis de deux, parce que il écrirait Lay's, saveur de pneu d'été. Je serais comme, ça goûte-tu les pneus? Je sais pas aussi.
Ben, honnêtement, je pense qu'on serait beaucoup à l'acheter juste pour voir si ça goûte vraiment des pneus.
Ça goûte-tu? On va voir si ça goûte. Je vais en acheter, les en vendre, puis je suis fait.
Puis là, tu prends la chip aux pneus, puis tu réalises, j'ai jamais mangé ça, moi, des pneus.
C'est pas bon.
C'est dégueulasse.
Fait que c'est le marketing. Fait que c'est ce que vous avez aujourd'hui dans le On en jase, édition saveur de pneus.
T'es des chips. Ouais, c'est ça. T'es comme des chips aux pneus.
Exact. On est exactement ça. Mathias Manchette.
Oui, l'état d'urgence qui a été déclaré au Venezuela à la suite de deux puissants séismes de magnitude 7.2 et 7.5 qui se sont déroulés hier vers 8h04. Hier soir, c'est un lourd bilan là, qui va continuer à augmenter au cours des prochaines heures, malheureusement. Pour l'instant, on parle de 164 morts, environ 1000 blessés, mais l'Institut géologique des États-Unis a laissé entendre qu'il y a des fortes chances qu'on se retrouve entre 10 000 et 100 000 morts dans ce drame-là. Donc, on va suivre ça de près au cours de la journée. Le gouvernement Fréchette a lancé l'appel d'intérêt international pour la réalisation d'un troisième lien à l'Est. Par contre, même si l'appel international est d'une durée de 45 jours, on ne connaîtra seulement le tracé exact et les coûts avant le printemps 2027. J'ai l'impression que c'est un sentiment déjà vu par rapport à la CAQ qui relance ce projet tout juste avant une élection. Et je termine avec Mark Carney qui a évité de prendre position concernant l'interdiction de la SKS, une arme de style militaire légale, celle qui avait été utilisée justement lors de la fusillade lundi du côté de Montréal. Le gouvernement Trudeau en 2023 avait tenté de l'interdire, mais avait reculé après la grogne populaire de la population et la pression des partis d'opposition. Lorsque questionné à ce sujet-là par la presse, je vais citer Mark Carney directement. Il a dit « Nous sommes en train de faire une réforme de ce processus afin d'avoir des décisions des experts, c'est-à-dire la GRC, de décider lequel il faut prohiber », a-t-il répondu. Pour le moment, c'est tout. On s'est donc retourné vers la GRC qui devrait rendre un rapport au cours des prochains mois à ce sujet-là au gouvernement Carney.
Je vous ai parlé un peu plus tôt de cet événement à Calgary, en Alberta, un festival de musique Country Thunder qui est annulé à deux jours du début du festival parce que c'est trop difficile de s'entendre avec la ville qui mène des travaux importants dans le centre-ville, puis on ne peut pas offrir un festival de qualité internationale. C'est quand même assez dramatique comme situation. Parlant d'événements annulés et d'actualité en même temps, en Europe, présentement, il fait chaud sur un moyen temps. Et on dit donc canicule, vague de chaleur extrême pour différents pays. 101 millions d'habitants. Il va faire 35 degrés aujourd'hui et dans les prochains jours. En France, c'est des températures records. En Angleterre aussi. Et est-ce que tu aimes l'ironie, Mathias?
Oui, vas-y donc.
Parce que le comble de l'ironie, OK, on a atteint le...
Ah oui, OK, je sais.
On a atteint un endroit jamais encore obtenu en termes d'ironie. C'est que, justement, à Londres, alors qu'il fait très chaud, il y a un événement là-bas qui se tient depuis un siècle, à la London School of Economics, qui est quand même pas rien, là. C'est un des endroits les plus prestigieux au monde.
Oui.
Et ils tiennent, ou bien du moins, ils devaient tenir dans les prochains jours,
normalement,
un événement sur l'impact des chaleurs extrêmes, du climat et du réchauffement climatique sur la vie en général. Puis un grand panel à la discussion pour comprendre un petit peu ce phénomène et comment s'y préparer et tout ça. Ben, l'événement n'aura pas lieu. Il a été annulé parce qu'il fait trop chaud. Je vais te le lire en anglais, le titre, parce qu'il est quand même nice.
Ouais, ouais.
Extreme heat panel cancelled due to extreme heat. Fait que, sais-tu quoi? Même s'ils n'ont pas eu le panel, ils ont atteint l'objectif.
En fait, je pense qu'ils ont excédé l'objectif.
Oui, ils ont excédé l'objectif avec cette décision-là. Tu sais, quand tu te dis... Tu sais, en plus, l'air climatisé n'est pas super... c'est pas de tout le monde qui l'utilise là-bas comme ici. Ici, c'est quand même beaucoup dans plein de buildings.
C'est uniformisé.
En Europe, c'est rare encore. Oui. Donc là, il n'y a pas d'air climatisé. C'est un endroit qui est... Bon, on ouvre les fenêtres, puis il fait beau, puis il y a du vent, puis ça passe. Puis Londres, c'est pas un endroit reconnu comme étant extra chaud non plus. Mais là, il fait tellement chaud qu'ils se disent non, il y a trop de risques pour la santé et la la sécurité de nos invités. Fait qu'on va laisser faire cet événement-là. Mais ça fait tellement jaser parce que c'est ironique que, dans le fond, ils nous ont un peu déjà expliqué leur point. Là.
Ils ont, en fait, en annulant cet événement-là, en raison de chaleur extrême, ils ont prouvé leur point, tout simplement. Ils n'ont même pas eu à donner un seul argument.
Non.
Qu'est-ce que tu veux réfuter à ça? Ouais, on voulait faire un panel sur les chaleurs extrêmes qu'on a dû annuler parce qu'il faisait trop chaud.
Bravo.
Félicitations, vous avez gagné l'argument.
On a gagné du temps. On a gagné du temps. C'est ça.
Puis, ils ont eu un impact beaucoup plus grand sur toute la publicité que ça a faite en faisant jaser dans les médias. Au final, ce panel-là, en étant annulé, a eu un impact beaucoup plus grand à travers le monde que ce qu'ils auraient pu avoir en restant là-bas, en faisant leur petit panel. Personne n'en aurait parlé.
Non, c'est ça. On en jase. On est rendu à... Je sais pas qu'est-ce qu'on ferait d'habitude à ce moment-là, mais je vais quand même mettre un petit... On s'en va parler à Alex Laramée dans les prochaines secondes.
Jusqu'à 14h. On en jase. 100% parler tout l'été.
Boulevard. 102.1. Alex Laramée, salut, ça va bien?
Yes, vous autres?
Oui, très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans On en jase. Différents sujets, mais commençons par le hockey. Beaucoup de choses qui se trament. Là, je ne sais pas si tu as vu au cours des dernières minutes les directeurs généraux du Canadien, notamment Jeff Gorton, qui a dit, et attends un peu, je vais le citer, « Pour le moment, nous avons de bonnes chances de repêcher au 28e rang demain au repêchage de la Ligue nationale de hockey. »
Ouais, non, j'ai écouté le point de presse au complet là, de Jeff Gorton. Évidemment, Kent Hughes n'était pas là. On pense qu'il est au téléphone, encore bien occupé,
c'est bon,
Kent. Mais tu sais, il faut se rappeler que Jeff Gorton avait dit la même chose l'an passé à son point de presse.
Bien
puis quelques heures plus tard, on échangeait deux choix de première ronde pour aller chercher Noah Dobson. Il l'a même mentionné dans son point de presse. Il a dit « En ce moment, j'ai rien, mais l'année passée, c'est exactement ça qui est arrivé. Je vous ai quitté en parlant des journalistes. » Puis ensuite, ça a commencé à s'activer. Mais on le sait là, que le Canadien est au téléphone. On voit les mouvements ailleurs dans la Ligue nationale. C'est évident que le Canadien veut s'aider. Mais les prix, tout est une question de prix parce qu'on voit les prix en ce moment. Puis c'est complètement fou.
Fou, hein? C'est ça. T'as vu, toi aussi, en fin de semaine. Pas en fin de semaine. On est juste.
Ah! On n'est pas là.
On est tout mêlé.
On est tout mêlé, Alex. C'est l'enfer. Non, mais ça s'active. Puis ce qu'on a vu justement hier et depuis le début de la semaine, les transactions, les prix payés, c'est trop élevé pour bouger. Ça te refroidit, toi?
Ben oui, c'est ce que laissait entendre aussi Jeff Gorton. Je veux dire, je pense qu'il n'y a personne qui trouve qu'un choix un quatrième choix au total pour Bowen Byram, ça a du sens dans une économie qui est régulée.
Ouais.
Non, exactement. Puis c'est ça que Jeff Gorton a expliqué, c'est qu'il y a beaucoup d'acheteurs et très peu de vendeurs. On a juste à regarder, nous, dans notre division, littéralement tous les clubs essaient de faire les séries en ce moment. Donc, ça crée un marché qui est définitivement favorable aux équipes vendeuses.
Tu sais, dans un marché comme ça rendu là, on est-tu mieux de juste dire... On s'améliore pas tout de suite, puis dans le pire des cas, on magasine au début de la saison quand certaines équipes qui étaient censées être bonnes vont peut-être être un peu moins bonnes.
Ben, c'est sûr que ça peut être une option, mais il faut que... T'sais, on se le cachera pas, il y a beaucoup de pression pour le Canadien de s'améliorer. On a tous vu le trou au poste de deuxième centre. On entend parler aussi qu'on voudrait aller chercher un autre défenseur droitier.
Oui.
Donc, si on arrive les mains vides au camp d'entraînement, je pense qu'il va y avoir un certain esprit de déception. Mais évidemment, je pense qu'il y a différents plans là, du côté du Canadien. C'est sûr qu'on aimerait toujours avoir le plan A, mais je pense que lorsque le Canadien a amené Patrick Laine à Montréal, je pense pas que c'était le plan A. Je pense qu'il y a eu des plans qui n'ont peut-être pas fonctionné puis on est tombé à d'autres étapes. Donc, est-ce que le Canadien essaierait de faire un coup de circuit? Certainement. Est-ce qu'on va se ramasser peut-être avec un simple ou un double? C'est très probable avec le marché qu'on a en ce moment.
Lequel des deux est le plus susceptible de ne plus être avec l'équipe d'ici dimanche? Est-ce que c'est Brendan Gallagher ou Samuel Montembeau?
Ben, on entend beaucoup parler que ces deux joueurs... ont de l'intérêt à travers la Ligue nationale. Brendan Gallagher a été notamment lié aux Canucks de Vancouver, qui eux sont dans une reconstruction complète. Moi, je dirais que je pense que c'est Brendan Gallagher. Même Jeff Gorton l'a abordé dans le point de presse.
Ouais.
Il a dit qu'il y avait des conversations très franches avec Brendan Gallagher. Donc, je pense que ce que ça veut dire, si on lit entre les lignes, c'est qu'on est prêt à l'échanger. Brendan Gallagher est prêt à partir. Donc, c'est probablement celui qui a le plus de chances de partir, selon moi.
Alex Tuck, qui a été échangé hier, un joueur des Sabres de Buffalo auparavant, maintenant membre des Capitals de Washington. Le bout qui est surprenant là-dedans, c'est pas qu'il change d'adresse, parce que c'était comme un peu su que les Sabres ou qu'il ne voulait pas re-signer avec les Sabres ou quelconque raison, même qu'on l'aurait pris à Montréal, mais à 10,5 millions par année, c'est trop cher à payer.
Ben, on voit les contrats qui se sont donnés dans la Ligue nationale, notamment Radish, qui va gagner le même salaire que Lane Hudson. C'est ce qui arrive lorsqu'on est un agent libre. Les Capitals voulaient s'assurer des services, donc on est allé donner ce montant-là. Ça veut peut-être dire que s'il s'était rendu jusqu'au 1er juillet, peut-être qu'il aurait touché encore plus que 10,5, mais pour moi, c'est trop cher.
Ben là,
on a vu les on l'a vu dans la série contre le Canadien, complètement effacé. Donc, je ne sais pas trop ce que les Capitals essaient de faire. On essaie de s'acheter une année, peut-être, ou deux, le temps que Ovechkin veut continuer de jouer. Mais ça semble un club qui va faire les séries puis mourir en première ou en deuxième ronde.
Oui, ben c'est ça que j'allais dire. T'en as parlé, beaucoup de pression sur le Canadien parce que l'Est s'annonce redoutable. Les Capitals et les Panthers, deux équipes qui n'ont pas fait des séries l'an prochain, sont très agressifs sur le marché présentement.
Ah oui, c'est sûr. Mais il y a des clubs comme les Flyers qu'on ne voyait pas en série. Peut-être qu'eux vont redescendre. Donc,
les Red Wings ils n'étaient pas en série, mais techniquement, ils vont régresser avec l'échange qui est à venir de Dylan Larkin.
Ah ouais, non, je suis totalement d'accord. Donc, je pense que, tu sais, c'est en début de saison l'année dernière, on aurait tous mis les Panthers en série. Évidemment, il y a des blessures qui vont arriver en ligne de compte, puis je pense que ça va s'équilibrer, mais définitivement l'Est, puis particulièrement l'Atlantique pour moi, c'est une division qui va être mortelle l'année prochaine.
Puis transaction dans les dernières heures, juste les mentionner pour les grands fans de hockey, Garnett Hathaway s'en va en Floride, lui qui était pour les Flyers, et en échange, un choix de 4e et 5e ronde, encore là de la profondeur à l'attaque pour les Panthers, et Hendrix Lapierre, québécois, qui passe des Capitals de Washington aux Pingouins de Pittsburgh, donc à l'intérieur de sa division en plus, un choix de 3e ronde et de 5e ronde de ce côté. Par la suite, on surveille donc le repêchage demain avec Gavin McKenna, qui risque d'être le choix au premier au total des Maple Leafs de Toronto. Ça s'enligne comment, tu penses, le top 5, le top 10 demain au repêchage?
Ben, c'est intéressant parce que on a vu justement à Chicago qui ont échangé le choix de le 4e au total. C'était la première fois en plus de 20 ans qu'un choix dans le top 5 bougeait. On sait déjà que San Jose serait peut-être intéressé à bouger le 2e choix au total. Donc, pour moi, c'est chose réglée. Gavin McKenna, oui, s'en va à Toronto. Mais honnêtement, je serais pas surpris que San Jose bouge le 2e choix au total, potentiellement pour aller chercher un défenseur. On entend parler que Zach Werenski voudrait peut-être quitter Columbus. Donc, est-ce que c'est une possibilité? Mais selon moi, je m'attends à voir beaucoup d'actions puis même d'autres choix dans le top 5, dans le top 10 à être échangés d'ici demain.
Puis est-ce que si le Canadien, justement, ne fait que repêcher sans faire aucune transaction en fin de semaine, on va dire qu'on est déçu?
Ben, pour moi, ça va être une déception. Ouais. Je pense que la pression est là, on veut s'améliorer. Oui, c'est sûr que tous les jeunes vont s'améliorer. Demidov, c'est sa première saison. Aucun doute qu'il va être encore meilleur l'année prochaine, mais on a vu quand même contre la Caroline, un club expérimenté, à quel point il nous en manquait encore un peu. Là, on s'est fait déclasser par les Hurricanes. Donc, d'aller chercher un joueur peut-être un petit peu plus dans la fleur de l'âge, là, vraiment plus dans les 24, 25, 26 ans, je pense que ça serait une chose à faire. Puis définitivement, si on repêche un gars qui aiderait le Canadien dans seulement 3, 4, 5 ans.
Ouais.
Pour moi, ça serait une déception.
Puis on va se le dire, c'est pas comme si on en avait besoin non plus. On a des bons espoirs, puis on a des bons jeunes joueurs qui sont là pour plusieurs années. On n'a pas besoin de repêcher cette année.
Totalement d'accord.
Puis Marie-Philippe Poulin aussi qui a annoncé, puis ça c'est dans la LPHF, donc elle se fera opérer prochainement.
Je n'ai jamais vu.
Oui, une annonce. Elle se fera opérer prochainement et au mois de juillet. Puis sa blessure dure depuis justement les Jeux Olympiques et tout ça. Elle a travaillé à travers son ligament croisé antérieur. Encore là, ça ajoute à la légende de Marie-Philippe Poulin qui joue blessé pendant 3-4 mois puis qui s'en va gagner la Coupe Walter aussi. Une conférence de presse ce matin là-dessus, Alex?
Ouais, non, honnêtement, c'était toute une annonce. Il y en a plusieurs qui avaient peur qu'elle annonce sa retraite, puis même au point où elle est rendue dans sa carrière avec une telle blessure, elle aurait pu. Puis honnêtement, elle s'en va au temple de la renommée, meilleure joueuse de tous les temps, sans contredit. Mais ça prouve encore sa force de caractère de dire « Hey, je vais me faire l'opération, puis je veux quand même revenir jouer après ça. » Honnêtement, je lui lève mon chapeau. Possiblement qu'elle va rater toute la saison prochaine, donc peut-être juste qu'on va la revoir dans 2 ans. Mais honnêtement, on n'en reverra pas souvent des Marie-Philippe Poulin dans le hockey féminin, puis même dans le hockey en général. Genre.
Ça rassemble une équipe, ces moments-là, tu sais, de dire « On le fait pour Marie-Philippe, justement. » Puis on donne. Si t'as déjà pas la motivation à 100% de donner tout ce que t'as sur la glace pour aller gagner un championnat, mais qu'en plus, ta meilleure joueuse joue sur juste une patte, puis c'est la meilleure joueuse de l'histoire, imagine la motivation des joueuses de la victoire. C'est bon, tant mieux qu'elles aient gagné finalement, évidemment. Alex, merci beaucoup.
Hey, ça fait plaisir.
Yes, on se parle bientôt. Alex Laramé, donc notre collègue du côté du 99.5 qui discute avec nous de sport. Au retour de la pause aussi, on va avoir un invité pour un expert soccer. Le Canada s'est qualifié hier pour la ronde des 16e et ça, c'est une première. Alors, on va parler à Andy Cerqueira. On va lui redemander son nom. C'est un Canadien d'origine portugaise. Mais il va être avec nous au retour de la pause. Circule, Mathias.
Oui, juste un petit tour parce que c'est difficile, notamment sur la 20, dans les deux directions. 20 direction ouest entre Taniata et président Kennedy. En fait, entre Chemin des Îles et président Kennedy, c'est au ralenti actuellement. 20 direction est également entre Taniata. Ça remonte jusqu'à Avenue des Églises depuis le début de l'heure du midi. Dit, c'est au rouge aussi. Il y a quoi que ce soit d'autre. 88 971-1021.
T'as pas encore téléchargé.
13h46 minutes sur les ondes de Boulevard 102.1. Dans les prochaines minutes, ben à 14h, bien sûr, c'est Gravel dans le retour, Mathias?
Ben c'est Gravel dans le retour sans Gravel. Fait que j'imagine c'est juste le retour de Boulevard.
D'accord. De oui, le retour de Boulevard, t'as raison, le retour de Boulevard. Et c'est Nathan.
C'est Nathan,
meilleur,
oui.
Avec Antonine.
Avec Antonine et Véro Bergeron.
Véro qui est là. Bon, qui est là aussi. Dream Team, ça.
Mais exactement.
Dream Team. Donc, à venir à 14h. Nouveau bilan au Venezuela.
Oui, deux séismes qui ont eu lieu hier soir vers 8h04 du soir. De magnitude 7.5 et 7.2. Le bilan des victimes qui s'alourdit depuis le début de la journée. On parle maintenant d'au moins 188 morts, 1520 blessés et 200 personnes toujours prises au piège sous des décombres. Mais ça, c'est ce qu'on a eu le temps de recenser. Ce n'est pas des chiffres définitifs. Ça va continuer à évoluer au cours des prochaines heures. Justement, le retour va vous tenir au courant de la situation tout au long de l'après-midi.
La Coupe du monde de la FIFA 2026 se poursuit, surtout pour le Canada qui, hier, s'est qualifié officiellement dans la défaite face à la Suisse. On s'est qualifié pour la ronde des 16. Donc, le prochain match aura lieu dimanche. Notre invité, expert soccer au bout du fil, Andy Cerqueira. Andy, bonjour.
Allô, comment ça va?
Ça va super bien. Est-ce que tu es très satisfait de la performance du Canada jusqu'ici?
Ben oui, c'est, si on parle du tournoi là, totalement, là, si au début on se demandait ce serait quoi les résultats des matchs qu'on pouvait prévoir, puis le Canada, en fait, a eu les résultats auxquels on pouvait s'attendre. Donc, tout le bilan est positif. Tu sais, le 1-1 contre la Bosnie, c'est un match qui pouvait aller dans tous les sens. Ouais. Ça finit match nul. Contre le Qatar, on se devait de gagner, puis on l'a gagné vraiment haut la main. Puis contre la Suisse, tout était possible, mais on s'attendait à une défaite. Mais selon le parcours du Canada là, jusqu'à maintenant, on s'attendait à une bonne performance. Et le 2-1 d'hier, si on regarde l'histoire du match, est à prendre positivement.
OK. La raison pour laquelle le Canada donc a de surcroît la deuxième place versus la Bosnie alors qu'on a fait match nul contre eux, parce que les deux équipes ont 4 points, est-ce que c'est sur le différentiel?
Oui, exactement, c'est sur le différentiel. Donc, en ayant gagné 6-0 contre le Qatar, là, il y avait un coussin là, qui permettait là, justement de séparer les deux équipes. Il y a eu une bisbille là, justement à la fin du match contre le Qatar avec les deux coachs Lopetegui puis Marsh qui étaient fâchés. Ce qu'on a cru comprendre, c'est que le coach du Qatar était fâché que le Canada n'enlève pas son pied de l'accélérateur, donc ouais. Il a continué à jouer, mais c'est parce que le différentiel de but est ultra important, puis on l'a vu là.
Ça peut faire une différence sur si tu passes ou pas. Hier, le coach canadien qui avait pas d'air ben content de la performance de ses joueurs, c'était-tu justifié?
Ben, justifié dans le sens où au début, là, le match le Canada a commencé, là, on voyait qu'il y avait un stress notable. Puis, tu sais, ça a pris la moitié là, de la première demi là, pour reprendre le contrôle des esprits puis de commencer à créer des occasions. On semblait un peu perdu sur le terrain. Là, puis la deuxième demi, la Suisse a tiré profit là, du marquage individuel qu'on faisait en défense. Ils ont monté quelqu'un de plus. Puis ils ont désaxé notre défenseur centre, qui est, ben, de Fougerolles souvent, tu sais. Il l'a fait porter plus vers les lignes, puis ça, à un moment donné, ça ment pas. Là. Au deuxième poteau, il y avait tout le temps quelqu'un qui apparaissait. Puis le premier but, c'est ça. Le deuxième but, ben la Suisse envoie un ballon long, on n'est pas capable de le défendre. On se retrouve à trois joueurs sur un joueur. On n'est pas capable de prendre le ballon. La Suisse tire et marque le but. C'est 2-0 en début de deuxième, quand on avait fini sur une note positive la première demi. Il a fallu l'entrée de Stacchio pour reprendre ce match. Puis on a
Promise
vu des,
David
des...
qui a marqué sur sa première. Lui, il venait d'embarquer dans le match en plus, fait que ça c'est bien.
Et ça, c'est une magnifique histoire, exactement. Il y a eu la sortie de Larin pour Oluwaseyi, qui est pas un joueur qui nous a vraiment marqué de ses performances là, en tant qu'attaquant de pointe. Moi, j'avais hâte de voir Promise David. Puis, tu sais, c'est facile de chez soi là, regarder le match et dire « Ah, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. » Mais Promise David, quand il rentre, il pose le jeu de manière positive. Puis là, la première touche, là, c'était un conte de fées. Là. Première touche, premier but. Puis c'était magnifique à voir.
L'impact de la perte de Ismaël Koné dans le match contre le Qatar, justement, est-ce que ça a paru hier ou...
Ça a paru. En fait, Eustachio n'a pas commencé le match. Fait que nous, ce qu'on voyait là, depuis le début du tournoi, c'est que le duo Eustachio-Koné était magnifique à voir. Ils s'entendaient super bien sur le terrain. Koné est dans une montée de confiance formidable. Tu sais, il présentait vraiment une justesse dans son jeu. Il laisse parler sa confiance. Fait que ça, c'est essentiel dans un milieu de terrain de pouvoir être créatif puis de commettre peu d'erreurs. Puis il semblait bien se compléter là, avec Eustachio. C'est la première fois qu'on voit Eustachio avoir un duo de être dans un duo de demi-centre où il est plus libre de jouer où il veut. Mais Saliba, ça a été super. Il a super bien joué. Chouanière, c'était la première fois qu'il jouait. Ça a bien été aussi.
Un Québécois, ouais.
Oui, exactement. Ah. Saliba aussi, Québécois. Deux bons Québécois.
Oui, c'est ça, c'est vrai. J'ai vu parce qu'en plus, c'était la fête nationale. Puis il y en avait trois qui étaient sur le partant. Ça, c'est du jamais vu avec le gardien en plus, Crépeau. Donc, tant mieux, c'est bien.
Magnifique. Puis on peut compter aussi Luc de Fougerolles, c'est ça, comme Québécois d'origine. Même s'il est né ailleurs. Puis, tu sais, c'est ce qui est magnifique de voir la filière québécoise dans cette équipe-là qui est en constante évolution. Là, le Canada gagne beaucoup en maturité, en style de jeu, en niveau de jeu. On nous regarde
plus de haut.
Plus comme une bonne équipe.
Oui, c'est ça. Hein? On va s'en reparler. En fait, tu vas reparler avec l'équipe de... avec Jeff de On en jase, justement, lundi prochain. Tu vas être ici, je pense, en studio pour la suite des choses concernant le Canada, parce que le prochain match, c'est justement dimanche contre l'Afrique du Sud. Est-ce que c'est un adversaire prenable?
L'adversaire, oui, est prenable, parce que l'Afrique du Sud, c'est une surprise, en fait. C'est une surprise qu'ils soient en deuxième place. Tu sais, ils l'ont pas volé. Ils ont eu des bons résultats. On parlait de faire face à l'adversité là, pour le Canada. Ben, l'Afrique du Sud est une autre équipe aussi qui a eu cette capacité-là parce que on se rappelle le match d'ouverture, c'était contre le Mexique. Ils ont eu deux cartons rouges, ils se sont fait ramasser là, contre le Mexique. Et puis après ça, ils ont réussi à aller chercher un nul contre la Tchéquie en jouant bien. Et hier, contre la Corée du Sud, c'est une victoire d'1-0 dans un match que la Corée du Sud a dominé, mais ils ont puisé là, dans le fond de tout ce qu'il y avait là, pour arracher cette victoire-là. T'sais, c'est quelque chose de totalement inattendu que l'Afrique du Sud se retrouve dans cette deuxième place là, dans le groupe.
Fait que ça va être le prochain match le plus important de l'histoire du Canada en soccer dimanche contre l'Afrique du Sud. Et en terminant, Andy, donc en 30 secondes jusqu'ici, depuis le début du tournoi, il y a toujours une équipe qui est classée comme étant favorite, qu'on s'attend à ce qu'elle se rende loin, puis que la chaîne débarque, puis ça ne fonctionne pas. C'est laquelle cette année, cette équipe-là, qui, là, c'est pas terminé, justement, la ronde des groupes et des poules. Donc, y a-t-il une équipe qui est à risque que si elle ne gagne pas son prochain match, elle soit éliminée, puis que ce soit un drame?
Bien, le drame, hein, il commence déjà avec, je pense, le Sénégal, qui est à 0 points. On s'attendait à vraiment beaucoup plus de ça. La Belgique, qui est à 2-0. On s'entendait pas non plus du tout à tout ça, qui ont une belle équipe. La Tunisie, les Tunisiens voyaient la Tunisie, prévoyaient des belles performances de l'équipe. Après le premier match, le sélectionneur est renvoyé.
Ben oui.
Il manque pas de drama, comme on dit, dans cette Coupe du Monde-là. Tout comme il y a de très, très belles choses, là, par exemple.
Le Cap-Vert.
Le Cap-Vert, qui arrache 2-0 et mérité, là. Ils se battent jusqu'à la fin, tu sais. le gardien de but Votinha qui a arraché le match nul 0-0 contre l'Espagne, la grande favorite, sinon une des grandes favorites à gagner la Coupe du Monde. Ce gars-là avait 40 000 abonnés Instagram. Et depuis ce match-là, il est rendu à 15 millions d'abonnés Instagram, juste pour montrer à quel point c'est un fait incroyable.
Puis que la Coupe du Monde, c'est gros et c'est majeur, hein?
C'est mondial. C'est universel. Oui. Tous les satellites en parlent.
OK. Ben Andy, merci beaucoup pour tes lumières aujourd'hui. Puis continue de triper sur la Coupe du Monde. Lundi, donc, comme j'ai mentionné, tu vas reparler avec l'équipe de On en jase. Bonne fin de semaine.
Hey, bonne fin de semaine.
Salut, merci Andy.
Bon match.
Oui, bon Salut. Match. Andy Cerqueira, notre expert soccer ici à Boulevard 102.1 pour les prochains jours jusqu'à la mi-juillet.
J'ai bien hâte de voir si Alphonso Davies va jouer pour le Canada lors du prochain match aussi. Ça va être une pièce importante.
On
n'aura
plus le choix, là. On n'aura plus le choix. Exactement. C'est terminé l'émission, Mathias?
C'est déjà fini.
Parfait.
L'émission de type...
les méthodes de déchets.
Les méthodes de déchets, on en jase, se touche à sa fin.
Merci à vous, les auditeurs, donc, de votre écoute aujourd'hui. Et restez à l'antenne du 102.1 parce que le retour de Boulevard s'en vient pour votre retour à la maison. Bon, bonne fin de jeudi après-midi et à bientôt.
Bonne journée tout le monde.
Bonne journée. Salut.